Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct, mercredi 4 juin 2003, de 18 à 21h, en différé jeudi 5, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le Libre Journal de Serge de Bekech, se dirige ce soir par Bernard Lugan. Bonjour Victoria.
Bonjour Bernard.
Bonjour Philippe Conrad.
Bonjour Bernard.
Dominique Vénère est coincé dans les embouteillages, il nous rejoindra un peu plus tard. Victoria, nous ne nous voyons pas souvent, mais aujourd'hui nous nous sommes vus deux fois.
Et oui.
Et ce matin, pour une bien triste circonstance, nous avons enterré notre vieux camarade, notre vieil ami Jean Nourigat.
Et oui.
Et nous allons dédier cette émission à Jean Nourigat. Jean Nourigat, le père tranquille, qui était un de nos plus vieux amis, fidèles, vieux soldats de toutes les luttes, Saint-Nicolas du Chardonnay, Chartres, Martel. Et nous allons commencer cette émission par un chant qu'il aimait beaucoup. Je dirai deux, trois mots ensuite, un deuxième chant qu'il aimait beaucoup, et puis nous commencerons l'émission, car le combat continue, la route est encore longue. Et ce chant est tiré des Chants de France du chœur Montjoie Saint-Denis, nous donnons la référence tout à l'heure.
Qui était ce matin à l'enterrement. Avec beaucoup d'amis.
Tout le monde était là.
L'église était pleine, oui.
La superbe chorale de Saint-Nicolas du Chardonnay, la très belle messe qui a été dite, le chœur Montjoie et tous les amis. Un premier chant pour en hommage à Jean Nourigat.
Il est l'ami de tous, et ferme de tout autre secours. Le secours courtois et chevaleresque admire la nature créée. Il aime les plantes, les animaux, y voyant l'œuvre de Dieu. Il
Ce chant en hommage à Jean Nourigat, nous lui dédions l'émission de Radio Courtoisie aujourd'hui, le libre journal de Serge de Bekech, dirigé par Bernard Lugan. Et avant d'attaquer véritablement l'émission, un deuxième chant qui va résumer vraiment tout ce qu'était Jean Nourigat, et nous l'écoutons en pensant à lui. Jean Nourigat, qui était l'un des piliers de notre famille de pensée. Jean Nourigat, qui était plus connu sous le nom du Père Tranquille, ce restaurant qui était le lieu de rencontre de tout ce qui comptait dans notre famille il y a quelques années. Jean Nourigat, qui était l'inlassable animateur du chapitre des martyrs de septembre du pèlerinage de Chartres. Jean Nourigat, qui fut également un des pionniers de la reconquête de Saint-Nicolas du Chardonnay lors de l'affaire de l'occupation de la reprise de la sacristie. Jean Nourigat, qui était de tous les combats, tous nos combats, jusqu'à Martel, un des piliers du pèlerinage de Martel. Et Victoria, vous vouliez dire quelque chose?
Oui, Absolument, il avait deux surnoms qui le dépeignent bien. On l'appelait soit le vieux sauvage, soit Nounours.
En tout temps.
Ça dépendait des moments.
Oui, il avait un caractère qui était un caractère entier. C'était un vieux Gaulois. Et sur les routes de chars du pèlerinage, quand la fatigue commençait à se faire sentir, il y avait toujours des bruits de bidons
qui arrivaient.
Et Jean Nourigat avec un champigny bien frais qui sortait miraculeusement de on ne sait pas très bien où, remettait du courage dans la troupe. Voilà, ben c'est un grand personnage, un grand écrivain, un poète, un homme sensible, un homme de grande culture qui s'en va.
Ouais. Et pour les lecteurs de Serge Le Béketch, il y a un article, un dessin de lui par Aramis. Et puis un article de François Brignot aussi qui parle de lui, enfin.
Bien, nous renvoyons donc au Libre Journal. Bien, chers auditeurs, nous allons vraiment attaquer maintenant le cœur de l'émission après cet hommage à Jean Nourigat. Et Philippe Conrad, je vous passe la parole.
Oui, alors l'actualité africaine, Bernard, est toujours aussi riche, mais nous allons concentrer un petit peu les feux des projecteurs aujourd'hui sur une région bien particulière que nous n'avons pas eu l'occasion d'évoquer encore de manière très, très approfondie, mais une région tout à fait intéressante puisque l'actualité là devient brûlante, puisque la France va intervenir en République démocratique du Congo, donc dans le nord-est de son territoire, dans cette région de l'Ituri où depuis des mois maintenant les luttes tribales ou ethniques se poursuivent avec des dégâts humanitaires considérables, puisqu'on parle de plusieurs dizaines de milliers de victimes, puisqu'on a signalé des cas de cannibalisme. Et il semble que ce secteur soit l'enjeu de lutte à la fois entre les ethnies locales et également le lieu où se rencontrent les ambitions concurrentes à la fois de l'Ouganda et d'autre part du Rwanda que vous connaissez bien. Alors est-ce que vous pouvez dans un premier temps préciser un petit peu pour nos auditeurs, d'abord peut-être ce qu'est la géographie des lieux, car la géographie de l'Afrique centrale n'est peut-être pas absolument familière à tous nos auditeurs, la géographie des lieux, la localisation, les caractéristiques à la fois physiques et ethniques de cette région qui risque d'être au premier plan dans les semaines qui viennent, puisque encore une fois la France doit intervenir dans ce secteur dans des conditions que vous nous préciserez ensuite.
Eh bien, je peux vous parler d'autant plus facilement que je suis probablement un des 3 ou 4 en France à connaître cette région. C'est la région du lac Albert, c'est la région du nord de la région interlacustre, je la connais et c'est pour ça d'ailleurs que personne ne m'a demandé ce qu'il en était et personne ne m'a posé la moindre question alors que nous allons envoyer 1000 hommes de troupes. C'est tout de même incohérent, inconséquent. On se demande où nous marchons. Là, je reviens des États-Unis. Je suis un peu fatigué aujourd'hui parce que je viens d'avoir en 3 jours le double décalage horaire. J'arrive de Los Angeles. J'ai débarqué hier en début d'après-midi. J'étais pour la foire du livre de Los Angeles. Je reviens de cette foire du livre. J'ai vu comment travaillaient les Américains. Je vous garantis que si nous étions aux États-Unis, j'aurais depuis longtemps été consulté sur cette question, moi et d'autres. J'aimerais savoir qui, au ministère de la Défense et qui aux Affaires étrangères, connaît l'Ituri. Personne. Moi, je la connais. Donc, on ne m'interroge pas.
Alors, ceci étant, quand même quelques militaires qui,
oui, mais les militaires,
qui
oui,
vous
mais
fournissent l'occasion de,
oui, mais les militaires, oui,
d'intervenir
oui,
sur la question.
Oui, mais,
même, je crois.
Mais personne ne m'a donné un coup de téléphone pour me dire, bon, voilà, nous envoyons 1000 hommes en Ituri. Quelle est la saison en ce moment? Les herbes sont-elles hautes? Les herbes sont-elles, bon, peu importe. Alors, l'Ituri, c'est une région qui est tout à fait intéressante. Alors, vous qui êtes historien, Philippe Conrad, l'Ituri va tout de suite évoquer des événements. L'Ituri, c'est Samuel Baker. L'Ituri, ce sont
et sa femme.
Et sa femme.
Le couple
et sa
Baker,
femme.
Oui.
C'est Emin Pacha. Mmh. C'est Stanley. Mmh. Ce sont toutes les grandes découvertes de l'Afrique centrale à la fin du siècle dernier. C'est toute la lutte entre la poussée des mahdistes vers le sud. C'est tout le problème de l'impérialisme égyptien vers le sud. C'est la zone Interlacus. Alors, cette zone Interlacus, c'est une zone tout à fait intéressante. Et là, une fois de plus, la France va intervenir comme au Rwanda sans connaître la situation. Et je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire, là, le lac Albert. Ce n'est pas le Gabon. Nous entrons dans une zone dans laquelle nous sommes peu renseignés, nous sommes peu familiarisés. Ben, nous y allons. pour des raisons politiques, qui sont sûrement très bonnes, mais espérons que tout se passera bien. Alors, cette région interlacustre est une région qui est limitée au nord, par le lac Albert, le lac Kyoga, et au sud, disons, par le nord du lac Tanganyika, et qui est comprise à l'est entre le lac Victoria, et à l'ouest, toute la chaîne des lacs, qui partent du lac Albert jusqu'au lac Kivu-Tanganyika. La partie nord de la région interlacustre, c'est précisément cette région du lac Albert, qui est sur la fracture entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Et c'est une zone tout à fait intéressante, l'Ituri, parce qu'en fait, l'Ituri, c'est le même paysage que le pays Banyamulenge, situé en face du Burundi. En d'autres termes, nous sommes là dans le Rift Valley, la grande vallée du Rift, dans la frange occidentale de la fissure de la Rift Valley. Et cette Rift Valley, en s'ouvrant, a laissé dans son centre des zones basses, et toutes les zones basses sont occupées par des lacs, dont le lac Albert, qui est le plus septentrional de ces lacs de la région interlacustre. Et à l'ouest du lac Albert se trouve une zone de haute terre, de haut plateau, qui sont des zones favorables à l'élevage et à l'agriculture, et qui sont donc des zones de concentration de population. Et ces zones de concentration, nous les trouvons depuis l'Ituri jusqu'au nord du Tanganyika. Nous sommes très exactement dans des paysages qui rappellent les paysages du Rwanda, les paysages du Burundi, les paysages des zones hautes de l'Ouganda, les paysages du Kivu Zaïrois, les paysages du Massisi. Nous sommes véritablement dans cette même zone, c'est la même région, avec les mêmes populations. Ce qui fait que nous allons nous retrouver en Ituri en présence du même problème que celui dans lequel nous nous sommes pris les pieds au Rwanda, qui est la question Tutsi-Hutu. À différence près que les Lendu ne sont pas des Hutus, je vous parlerai tout à l'heure des ethnies de cette région, qui sont des ethnies très complexes, très compliquées. Alors, c'est une zone très originale, la région de l'Ituri. C'est une zone qui tire son nom d'ailleurs de la rivière Ituri. C'est une zone très originale, pourquoi ? Car c'est une zone qui, à l'ouest, est en contact avec la grande forêt équatoriale. Et c'est une zone qui est en contact avec un monde donc totalement différent. En d'autres termes, la grande Afrique pastorale, la grande Afrique orientale, l'Afrique de la vache de la lance, prend fin là où commence la forêt. Et c'est une zone qui, en fait, est divisée en deux milieux géographiques. Le milieu du lac Albert, qui est un milieu de basse terre, en moyenne 700 mètres d'altitude, milieu chaud, et très chaud, milieu de savane, et un monde de haute terre situé entre 1800 et 2400 mètres. 1800 et 2400 mètres, donc pas de mouches tsetse, pas de maladie du sommeil, pas de trypanosomiase, pas de malaria. Un monde excessivement sain pour la vie des hommes, pour la vie du bétail. Un monde qui est favorable à l'élevage, qui est favorable à l'agriculture. Un monde dans lequel on a découvert de l'or aussi, les mines de Kilomoto. Et ce qui est intéressant quand on arrive dans cette région du lac Albert, cette région qui est une région frontalière entre l'Ouganda et l'ex-Zaïre et la RDC, région qui est limitrophe également du Soudan, donc tous ces problèmes régionaux qui viennent se télescoper avec la mosaïque humaine. Ce qui est frappant lorsqu'on arrive dans cette région du lac Albert, c'est de voir cette montagne qui vous écrase. Parce que la zone des basses terres lacustres est excessivement étroite. Le trottoir lacustre est très étroit. Et immédiatement, nous grimpons sur le graben, le Talweg. Enfin, le graben est là, est énorme. L'on passe en quelques kilomètres de 700 mètres à 1800 mètres. Et lorsque l'on arrive sur le plateau à 1800 mètres, nous sommes dans un tout autre monde. Tout autre monde, qui est donc le monde des hautes terres. Le monde que l'on retrouve, je vous l'ai dit, au Rwanda, au Burundi, dans certaines régions de l'Éthiopie, un monde dans lequel il pleut, dans lequel le vert végétal est là, un monde dans lequel tout pousse, nous sommes dans les terres fertiles d'Afrique, et bien entendu, un monde qui va attirer des populations différentes. Et le problème de l'Ituri est que la mosaïque humaine y est bien plus diversifiée au Rwanda et au Burundi. Au Rwanda et au Burundi, vous avez deux populations. Les Tutsis, les pasteurs Tutsis, à haute taille, et les Hutus, les agriculteurs. 20% de Tutsis, 80% de Hutus. Là, dans l'Ituri, vous avez trois populations. Et ceci est tout à fait intéressant. Vous avez trois types de populations. Un groupe qui est le groupe dit Lugbara ou Kakwa, le groupe dit Alur, A-L-U-R, dont font partie les Lendu, qui sont à l'heure actuelle opposés au troisième groupe, les Hima. Les Hima, qui sont-ils ? Parlons des Hima, car c'est le groupe qui est le plus intéressant dans la région. Plus intéressant pourquoi ? Tout simplement parce que c'était les dominants. Mais pas les dominants partout, les dominants dans certaines zones. Alors les Hima, qui sont-ils ces Hima ? Eh bien, ils se rattachent au grand groupe Tutsi, que l'on retrouve jusqu'au Burundi. Rwanda, Burundi, Ankole dans l'Ouganda, Bunyoro.
C'est le nom qu'ils ont en Ouganda aussi, Hima.
Donc, en Ouganda, Hima, dans l'Ituri, Hema.
Hema, c'est ça.
Au Rwanda, Tutsi. Mm-hmm. Au Burundi, Tutsi et Hima. Mm-hmm. Mais c'est la même population, avec, si vous le voulez, un caractère morphotypique moins marqué que les Tutsis du Rwanda. Car les Tutsis du Rwanda, eux, avaient un morphotype très particulier. Le morphotype est très réel chez les Hema de l'Ituri. Ils sont plus grands que les autres populations. Mais ils n'ont pas, si vous le voulez, ces traits tout à fait particuliers qu'avaient les Tutsis du Rwanda, qui pouvaient atteindre 2m10, 2m15, des tailles considérables. Bon, et des traits qui étaient des traits très droits, très peu négroïdes. Une peau noire, mais des traits non négroïdes. Alors, trois populations. Alors, ce qui est intéressant avec les Hima, et ceci va expliquer toute l'histoire d'aujourd'hui, bien entendu. Alors, vous voyez, encore, là, on voit très bien qui connaît cette histoire. Je vais vous parler du Bunyoro. Qui connaît l'histoire du royaume du Bunyoro ? Personne. Or, là, nous allons parachuter 1000 hommes au milieu d'un problème qui découle de la dislocation du royaume du Bunyoro au XIXe siècle. Et c'est fondamental. Eh bien, dans l'ignorance totale du dossier, nous intervenons. C'est parfois énervant de voir une telle cécité politique, un tel refus du renseignement historique. Alors donc, ces Hima sont des gens tout à fait intéressants, parce que ils sont arrivés probablement récemment dans la région. Quand je dis récemment, 15e siècle. 16e siècle, qu'est-ce au jeu de l'histoire, 15e, 16e siècle. Et il est tout à fait probable que ces Hima, il est même certain que ces Hima soient venus du Bunyoro. Alors, le Bunyoro était un royaume, Hima, Tutsi, de type Hima Tutsi, qui était situé à l'est du lac Albert. Le grand royaume du Bunyoro. D'ailleurs, c'est ce royaume du Bunyoro avec lequel les explorateurs avaient eu des contacts, etc. Et ce royaume du Bunyoro a vu, au 15e ou 16e siècle, des luttes internes, et certains clans sont partis. Ce sont ces clans, Hima, Hema, qui se sont installés de l'autre côté du lac Albert, sur les hautes terres. Très exactement ce que nous avons connu avec les Banyamulenge du Zaïre, en face du Kivu, au Burundi, en face du Burundi, en face du Rwanda. Ces pasteurs Tutsi, que l'on appelle les Banyamulenge au Zaïre, était originaire du Rwanda, et au 15e, 16e, 17e siècle, au moment de certaines successions royales, au moment de certaines luttes provinciales ou autres, certains clans sont partis. Ils sont partis de l'autre côté, où ils ont continué leur même mode d'existence, en appartenant toujours culturellement au grand ensemble, mais en étant séparés de ces royaumes. Ce qui fait que, traditionnellement, les Hima, donc les Hema de l'Ituri, ont toujours regardé vers l'est, c'est-à-dire vers le Bunyoro, c'est-à-dire vers l'Ouganda. Parce que s'il n'y avait pas eu la colonisation, il n'y aurait pas eu séparation entre le Bunyoro et l'Ituri. Cette zone était une zone qui traditionnellement était plus ou moins contrôlée par ces Hema qui dépendaient du Bunyoro. Comme la situation était identique dans le monde Banyamulenge, du Masisi et du Kivu, à la hauteur du Rwanda, à la hauteur du Burundi. C'est comme cela que les Tutsis du Rwanda ont pu lancer l'offensive contre Mobutu en s'appuyant sur leurs frères qui étaient au Zaïre. Alors la presse parlait une l'ethnie Banyamulenge, mais il y avait ce sont les Tutsis du Rwanda émigrés au XVIIe siècle. Bon, et là les Hema
qui n'avaient pas supporté l'afflux des réfugiés Hutus, afflux massif l'échec du génocide.
Donc télescopage historique. Donc là nous sommes avec les Hema en présence de gens qui traditionnellement se tournent vers l'Est, se tournent vers l'ancien royaume du Bunyoro, qui aujourd'hui est intégré à l'Ouganda. D'où le rôle important de l'Ouganda au Zaïre. Pour l'Ouganda, Et pour Mousseveni, cette zone est une zone qui traditionnellement est sous l'influence du Bunyoro, une des composantes historiques de l'Ouganda moderne. Alors cette réalité est une réalité qui débouche sur un examen plus détaillé des populations de cette Ituri. Parce que nous sommes là en présence, j'allais dire, d'un paradoxe tout à fait intéressant. Dans la mesure où, au point de vue linguistique, le groupe Alur, Alur, et le groupe Kakwa Lugbara sont des groupes qui linguistiquement sont des nilotiques. Des nilotiques, qui se rattachent donc à ces populations du Sud-Soudan, qui se rattachent également à certaines populations du nord de l'Ouganda, notamment les Acholi. Et ces nilotiques sont divisés en deux familles. Alors, les Alur font partie du groupe linguistique de la famille, du sous-groupe, pardon, nilotique occidental, et les Kakwa Lugbara du sous-groupe nilotique oriental. Les linguistes classent ces deux ensembles dans le sous-groupe du soudanais oriental, faisant partie du grand groupe linguistique Shari-Nil, le groupe Shari-Nil. Ce qui fait que, linguistiquement parlant, toutes ces populations sont quasiment toutes linguistiquement apparentées, sauf les Hema. Les Hema, qui sont d'une autre origine raciale, et qui sont des bantoufones. C'est quand même étonnant. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Hema, comme tous les pasteurs de la zone interlacustre, ont abandonné leur langue d'origine pour prendre des langues bantoues. Alors vous allez me dire, voilà bien la preuve qu'il n'y a pas de différence d'ethnie ou de race, puisque nous avons affaire à des bantous. Linguistiquement, les Hema sont donc, seraient des bantous. Mais le bantou n'est pas un phénomène racial, c'est un phénomène linguistique. Alors je réponds toujours dans cette image. Mais d'accord, les Français et les Sénégalais parlent la même langue. Ça ne veut pas dire qu'ils soient de la même origine. Cela veut dire qu'entre la France et le Sénégal, il y a eu un moment d'histoire commune. Et que ce moment d'histoire commune a fait que les uns ont pris la langue des autres. Mais ça ne veut pas dire que l'origine des Sénégalais et des Français soit la même. Mais quand on confond origine et influence, c'est tout le problème. C'est tout le problème de nos intellectuels tiers-mondistes, marxistes et des incompétents de la presse, c'est qu'ils confondent origine et influence. Alors bien, quand on ne sait plus ce qu'est une origine ou une influence, quand on ne sait plus ce qu'est une ethnie ou une tribu, on peut dire n'importe quoi. Ce qui fait que ces Hema sont aujourd'hui, dans la région de l'Ituri, quasiment les seuls à parler une langue bantoue, influencée de la langue qui est parlée au Bunyoro, c'est-à-dire en Ouganda en face. Parce que l'Ituri est non seulement une frontière géographique, non seulement un lieu de contact racial, mais c'est également un lieu de contact linguistique. Les trois grands groupes linguistiques de l'Afrique centre-orientale se télescopent dans cette région. Alors, comment s'est passée l'organisation politique de l'Ituri jusqu'à ces derniers temps ? Eh bien, il s'est trouvé que, comme partout dans la région interlacustre, les pasteurs, Hema, Tutsi, ont pris le pouvoir. Et aujourd'hui, l'on nous dit, il y a des combats qui opposent les Lendu aux Hema. L'affaire est compliquée, et l'affaire ne se résume pas à cette simple opposition. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas à proprement parler de territoire Hema. Dans la région de Jiti, vers le sud, vers la Semliki, nous avons certes une zone qui est à dominante Hema. Mais les clans Hema ont éclaté partout. Partout où il est possible d'élever des vaches, il y a des clans Hema. Et ces clans Hema saupoudrent le territoire, sauf vers la zone forestière. Et ces clans Hema qui saupoudrent le territoire se sont toujours imposés aux ethnies majoritaires au milieu desquelles ils pénétraient. Et ils les ont prises en main, et ils les ont dominées. Alors, le cas des Lendu. Ah, le cas des Lendu, c'est tout à fait passionnant. Les Lendu sont parmi les plus nombreux dans cette région. Or, les Lendu ont subi un double mouvement de broyage. Ils ont été refoulés du nord par les alours. Le phénomène qui s'est produit probablement au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc les alours nilotiques, qui venaient du Sud-Soudan, les alours qui pouvaient être peut-être apparentés à des groupes louo, chilouk, on n'en sait pas très bien, parce que, attention, nous ne sommes pas dans ce monde-là, dans un monde de connaissances de type chimique. Non, c'est tout à fait compliqué, il y a encore de grandes inconnues, nous ne savons pas tout sur la région de l'Itourie. Ils ont été refoulés du nord par les alours, et ils se sont retrouvés au sud, pris en main et colonisés par les Hima. Et c'est l'Endou, par l'intermédiaire des Hima, se sont eux aussi tournés vers le Bunyoro. Car était tourné vers le Bunyoro l'ensemble de la société Hima et de ses dépendants, de ceux qui avaient été réduits en quasi-esclavage par les Hima. Ce qui fait que l'Ouganda de Museveni peut jouer alternativement les deux cartes, aussi bien les Hima que les Lendu. Car et les Hima et les Lendu regardent vers la partie est du lac Albert, c'est-à-dire vers l'Ouganda. Le phénomène d'acculturation des Lendu est tel qu'en étant esclavagisés par les Hima, ils ont épousé les schémas mentaux et historiques des Hima. Vous me comprenez ?
Oui.
Ah, voilà dans quoi l'armée française va mettre les pieds. Hein. Je ne pense pas que les notes ethnographiques que je viens de vous donner aient été distribuées aux hommes qui vont intervenir là-bas. C'est pourtant intéressant qu'ils aient une conférence sur la question, par exemple. Donc, nous avons affaire là à un monde excessivement volatile, excessivement complexe. Parce que comment voulez-vous comprendre, dans ce contexte-là, que le Rwanda, Tutsi, et que l'Ouganda de Museveni, en partie Tutsi, soutiennent tour à tour les Hema et les Lendu? Car l'Ouganda a soutenu tour à tour les uns et les autres. L'Ouganda se sert des Hema pour affirmer sa présence en RDC, dans l'Ituri. Quand les Hema posent des problèmes, et quand les Hema ne sont pas entièrement le doigt sur la couture du pantalon, ben l'Ouganda va agiter les Lendu, qui eux aussi, les Lendu, regardent traditionnellement vers l'est du lac Albert. Et que vont faire les Rwandais? Eh bien, quand les Rwandais vont voir que l'Ouganda soutient les Lendu, eh bien l'Ouganda va soutenir ses frères Tutsi, qui sont les Hema. Mais demain, ça peut changer. Ce sont des alliances qui sont des alliances du moment. Ce sont des alliances qui peuvent changer d'une heure à l'autre. Alors, c'était quelque chose qui est tout à fait compliqué. Alors, oui.
Oui, parce que l'un des éléments quand même de cette situation de très complexe, c'est que il semblait en 1996 que Ouganda et Rwanda avaient en fait partie liée, hein, au moment où il s'agissait de se débarrasser de Mobutu et d'écarter la menace que représentaient les réfugiés Hutus, et ensuite les deux États qui ont en gros la même origine sur le plan ethnique sont devenus en fait concurrents dans cette région.
Non, parce que l'Ouganda est une mosaïque ethnique, pas le Rwanda et le Burundi. Rwanda et Burundi, oui. Vous avez deux ethnies. En Ouganda, vous avez plusieurs ensembles ethniques.
Mais Museveni et ceux qui dominent, oui, étaient proches des Tutsis.
Oui, c'est proche des Tutsis, mais
ils avaient soutenu pendant leur exil.
Mais ce n'est pas un grand Tutsi. Les grands Tutsis sont d'autres régions de l'Ouganda. Ce qui fait que, en fait, le cœur du problème, c'est que nous sommes en Afrique et qu'il n'y a pas, si vous le voulez, cette idée de nationalisme Tutsi. L'idée de nationalisme Tutsi n'existe pas. Et il y a eu des intérêts communs au moment de la guerre contre le Zaïre, des intérêts communs au moment où les Tutsis sont menacés, à ce moment-là, ils serrent tous les coudes. Mais quand ils ne sont pas menacés, eh bien, ils se livrent à leur jeu favori, qui est la division, les luttes d'influence. Or, la lutte d'influence est très nette en ce moment entre le Rwanda et l'Ouganda. Lutte d'influence, pourquoi ? Il faut bien voir que nous sommes dans un monde du non-dit. On ne dit jamais la vérité dans ce monde-là. Le principe du jeune noble Tutsi qui était éduqué, c'est ne jamais livrer son sentiment. Celui qui livre son sentiment a perdu, et il faut toujours mentir.
Machiavel sous l'équateur.
Oui, je cite souvent cette phrase qui est assez étonnante, qui m'avait été donnée par un de mes vieux amis Tutsi, l'abbé Kagame, qui était le grand historien du Rwanda, qui lui connaissait toute l'histoire du Rwanda, auquel je dois beaucoup, parce que c'est grâce à lui que j'ai pu pénétrer véritablement dans des lieux de renseignement que personne d'autre que moi n'a eu, parce que nous avions des grandes relations d'amitié. Et il me disait, vous savez, vous comprendrez beaucoup de choses quand vous aurez bien compris cette maxime Tutsi. Écoutez bien, chers auditeurs, écoutez bien. Quand tu es assis à côté de ton frère, arrange-toi pour lui brûler le dos avec un fer rouge. Et quand ton frère va se retourner vers toi avec un visage exprimant douleur et étonnement, il faut que ton propre visage dégage une telle impression de compassion que ton frère puisse se dire « Quelle chance j'ai dans ma douleur d'avoir un frère qui m'aime autant ». Voilà dans quoi l'armée française va mettre les pieds. Donc là, c'est quand même un monde particulier. Hein, c'est pas la Côte d'Ivoire. C'est un monde du non-dit. C'est un monde très très complexe. C'est un monde d'intrigue au dixième degré, etc. C'est un monde d'alliances qui vont changer du jour au lendemain. C'est un monde de connivences qui se font d'une manière tout à fait particulière. C'est un monde de vieilles civilisations fondée sur d'autres concepts de civilisation que les nôtres. Alors, c'est dans ce monde-là, l'intervention française, je ne juge absolument pas de son bien fondé. Attention, il est évident qu'au point de vue politique, la France joue une carte qui est tout à fait défendable. Le moyen, et là, attention, je suis tout à fait clair, surtout que l'on ne cherche pas à dire que je suis opposé à cette intervention. Non, non. Je dis simplement, c'est bon, êtes-vous bien sûr de savoir où vous mettez les pieds? C'est tout. Cette intervention est intéressante parce qu'elle écarte les Américains. Ça, c'est un joli coup. C'est l'Union européenne qui va intervenir. En se passant de l'OTAN. Ça, c'est très intéressant. Chirac fait un très bon coup. On se passe de l'OTAN, donc des Américains. D'ailleurs, le secrétaire général de l'OTAN est furieux. Et a souhaité, donc, je vous souhaite bonne chance. On peut s'attendre à ce qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues. Ça, on peut s'attendre vraiment à ce qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues.
Il y aura des Anglais avec nous.
Oui, mais symboliquement, 40 Anglais qui vont s'occuper de logistique. Mais au casse-pipe, ce sont les Français qui vont. La France, hein, il y aura quelques Espagnols qui vont s'occuper, je crois, de d'antenne médicale. Les Français, ils vont. C'est la France, hein, qui intervient surtout. Bien évident que les Tutsis du Rwanda vont essayer de faire payer aux Français la monnaie de leurs pièces. De la politique pro-Biarimana avant 1993, c'est bien certain, même si ils ont bien promis le contraire. Mais je vous dis, c'est des pays dans lesquels l'art de la duplicité et du mensonge est une vertu cardinale. Donc nous allons arriver dans un monde très complexe. Alors, l'intérêt politique pour la France était de reprendre la main en Afrique, dans une zone que nous avions perdue, dans une zone dont nous n'étions plus présents depuis l'affaire du Rwanda, et même d'aller au-delà de cette zone, puisque dans l'Ituri, nous n'avons jamais mis les pieds. Nous nous rapprochons du Soudan, il est bien évident qu'il y aura des contingents de tous les pays, mais c'est la France qui va mener l'opération. Donc si nous prenons une raclée, ou s'il y a des problèmes, ça nous retombera dessus. Si l'affaire se déroule bien, il est prévu que ça se déroule pendant un mois et demi, et qu'ensuite un contingent international arrive. À ce moment-là, nous nous retirerions. Donc, politiquement, ce n'est pas à moi de en juger, c'est aux hommes politiques, c'est aux diplomates, ils ont leurs raisons. Je pense que les conseillers diplomatiques de l'Élysée ne sont pas des incompétents, bien au contraire. C'est un choix qui se défend parfaitement et auquel je suis tout à fait prêt à souscrire. Le seul problème que je soulève, c'est savez-vous où vous allez? Tout. Savez-vous où vous mettez les pieds? Avez-vous conscience que l'Ituri, ce n'est pas Bouaké, que la région de Bounia, ce n'est pas Dakar? C'est autre chose. C'est un autre monde. Un monde que vous ne connaissez pas. Un monde que vous allez devoir découvrir. Vous avez aimé le Rwanda. Vous risquez de vous régaler dans l'Ituri. Attention, Ceci étant, il y a des problèmes d'ordre militaire qui sont considérables. Comment arriver dans l'Itourie?
Oui, parce que concrètement, la mise en œuvre de la mission.
Alors, comment arriver?
Et d'abord, la nature de la mission. Alors,
une mission militaire de séparation des milices. Cela veut dire intervenir contre les Huma. Cela veut dire, soyons clairs, cela veut dire intervenir pour sauver les Lendu, qui sont en train de prendre la pâtée par les Huma. Donc nous sommes dans le même schéma qu'au Rwanda. C'est-à-dire, les Tutsis mettent la pâtée à leurs adversaires, et nous intervenons pour empêcher la victoire finale des Tutsis. Car en fait, l'opération turquoise était une opération qui était non avouée, destinée à essayer de sauver la mise des Hutus pour qu'il y ait un partage du pouvoir. Donc, pour l'ensemble du monde Tutsi, l'intervention qui se fait n'est pas une intervention humanitaire. Une intervention humanitaire ne veut rien dire en Afrique, pour une humanitaire. De toute façon, cette conception est totalement étrangère à l'Afrique. Il est évident que pour les Africains, les Français viennent pour aider les Lendu, ou ils viennent pour faire reculer les Hima. Et nous allons voir ressortir des forêts les Interahamwe. Et nous allons voir déjà, dans tout l'est du Zaïre, dans les camps d'Interahamwe, l'on dit les Français arrivent, les Français, nos alliés, reviennent. Et là, on va voir les Interahamwe qui vont sortir. Et là, on va voir, et j'espère que je serai oiseau de mauvais augure, et j'espère que ce que je dis ne se réalisera pas, et l'on va voir un enchaînement qui va se produire, parce que les Rwandais vont dire, mais dites donc, les Interahamwe qui ressortent, parce qu'ils vont revenir, depuis la RCA, depuis le Congo-Brazzaville, depuis la région du nord du Zaïre, depuis la région de Bemba, depuis la région qui est située en face de la Centrafrique, depuis tout ce pays de l'Oubangui, on va tous les voir revenir. Et que vont-ils faire? Eh bien, ils vont se rapprocher du Rwanda. Et que vont faire les Rwandais? Eh bien, les Rwandais vont considérer que la présence française a une fois de plus favorisé les Hutus. Et nous risquons là de jouer un jeu très dangereux. Alors je pose simplement la question à nos responsables politiques. Avez-vous bien réfléchi aux conséquences de cette action? Alors premièrement, savez-vous où vous mettez les pieds? Deuxièmement, avez-vous réfléchi aux conséquences de cette intervention? Et je souhaite bonne chance à nos camarades qui y vont, parce que j'espère que ça se passera bien. Alors, ces milices sont des milices qui se distinguent à l'heure actuelle par, évidemment, des atrocités sans nom. Vous parlez de cannibalisme, c'est pas dans cette zone-là qu'il y a eu du cannibalisme. Le cannibalisme s'est pas produit là. Le cannibalisme s'est produit dans la zone qui était contrôlée par les milices de Bemba, par les Ngbandi, qui sont au nord, et qui ont mangé des pygmées. Oui. Mais là, dans la région de l'Itourie, il n'y a pas de pygmées. La forêt, l'Itourie se termine là où commence la forêt. Et la forêt commence avec l'Ouélé, le haut Ouélé. Donc c'est une autre région. Alors, mais là, il n'y a pas de Hema dans cette région. Il y a la forêt, donc il n'y a pas de Hema, il n'y a pas de vaches, donc il ne peut pas y avoir de Hema. Alors voilà donc la situation, voilà ce que l'on pouvait dire. Alors, évidemment, personne ne connaît l'Itourie en France, donc c'est pour cela que dans le numéro de l'Afrique réelle qui est sous presse, nous faisons un dossier Itourie. Un dossier Itourie avec les cartes. Je vais donner les cartes ethniques de l'Itourie. Personne ne connaît les cartes ethniques de l'Itourie. Là, je vais les publier, bien sûr, parce que moi, je les ai, les cartes ethniques de l'Itourie, je les ai dressées. Et nous allons donc faire un gros dossier sur l'Itourie. Et les abonnés de l'Afrique réelle seront les seuls à avoir un document pour savoir de quoi on parle lorsque l'on parle de l'Itourie. Et nous laisserons pendant ce temps les grands journaux, entre guillemets, continuer à nous parler de luttes ethniques, en confondant les uns les autres, peu importe. Nous sommes dans le monde de l'incompétence et dans le monde de l'à-peu-près. Eh bien, incompétent et à peu près, ça mène à toutes les catastrophes.
Et alors, cette intervention française, elle va se déployer, se mettre en œuvre dans quel délai?
Eh bien, écoutez, je ne peux pas vous en dire plus, car je débarque des États-Unis, de Los Angeles, je suis encore dans mon décalage horaire. D'après ce que j'ai pu savoir, c'est incessant. Nous attendions un petit peu l'engagement des Rwandais de ne pas nous mettre de bâtons dans les roues. Bien évident que les Rwandais ne vont pas dire « nous vous mettrons des bâtons dans les roues », c'est clair. Et ils vont le faire, mais sans le dire. La France attendait une participation symbolique de la Grande-Bretagne, pensant que si les Britanniques se joignent à l'expédition, ça va désarmer les l'hostilité du Rwanda, surtout. C'est un jeu très dangereux. C'est un jeu très dangereux. Et même si politiquement, même si diplomatiquement et politiquement, c'est intéressant. C'est intéressant de tenter ce coup, parce que si la France réussit quoi ? Elle réussira pas grand-chose. Elle va séparer les Emma et les Lendou, d'accord. Mais dans un mois, quand elle sera partie, tout recommencera. C'est une action de reprise de contact dans un monde que nous ne connaissons pas et dont nous avons été en partie exclus dans sa partie méridionale. Bon, diplomatiquement, j'accepte. Hein, c'est jouable. Mais voilà.
Est-ce qu'il y a actuellement un contingent onusien?
Oui, des Uruguayens, mais bon, les malheureux, les Uruguayens. Des Uruguayens
de leur quartier.
Des Uruguayens dans l'Iturine, en fait. Mais on croit rêver. Mais c'est du Pierre Dac, là. C'est du Pierre Dac. Et c'est impensable. C'est en ce sens que la critique américaine de l'ONU, est quand même, c'est la critique que nous faisions, nous, avant l'affaire de l'Irak. Nous avons toujours critiqué l'ONU. Nous n'allons pas nous mettre du jour au lendemain à adorer l'ONU. Nous savons que c'est un vol à puque totalement incompétent. Un contingent d'Uruguayens, mon cher Philippe, dans l'Iturie. Vous ne voulez pas aussi des danseuses à claquettes et... Non, mais c'est impensable. Voilà, il y a des questions d'auditeurs.
Pouvez-vous nous dire...
Prenez plusieurs questions, oui.
Pouvez-vous dire aux auditeurs où se trouve l'Iturie ?
Je l'ai défini en début d'émission.
Il n'était pas arrivé, l'auditeur.
Ah bon, avec la
gueule. Redites-lui vite.
Cher auditeur, l'Iturie est l'angle nord-est du Congo Zaïre, la RDC, l'ancien Congo Mobutu, l'angle nord-est, qui est la région du lac Albert, limitrophe de l'Ouganda. Donc c'est tout à fait dans le nord. Sur une carte, vous prenez le Rwanda. Vous avez l'Ouganda au nord, et au nord de l'Ouganda, vous avez le lac Albert, c'est situé à l'ouest du lac Albert.
Les Emma ont-ils un rapport avec une des ethnies que l'on rencontre au Rwanda,
oui,
pays voisin ?
Mais oui, je l'ai expliqué là aussi, je ne fais que ça pendant une heure. Les Emma, les Hima, les Tutsis, ce sont les mêmes, avec des caractères morphotypiques moins accentués pour les uns pour les autres, mais ce sont les mêmes.
Que devient la Somalie ? Est-elle toujours plongée dans
l'anarchie ? Oui, alors là... Autre question, on en parlera un autre jour, oui, mais aujourd'hui nous parlons de l'Iturie.
Cette reprise d'influence de la France en Afrique, c'est l'intérêt de la France peut-être et l'intérêt de Chirac sûrement. Voilà mon sentiment. Et c'est aussi pour damer le pion aux États-Unis.
Oui, mais là, nous sommes bien d'accord, cher auditeur, bien d'accord. Là, je suis... attention, je ne critique pas le bien fondé de cette intervention. Si cette intervention peut, d'une manière ou d'une autre, remettre l'Europe en selle par rapport à l'OTAN, par rapport aux Américains, peut montrer l'autonomie, peut montrer que nous n'avons pas besoin de l'OTAN, donc des Américains, pour intervenir, c'est une bonne chose. Attention, je suis tout à fait d'accord. Je demande simplement que l'on soit prudent. Je repose toujours les mêmes questions. Avons-nous étudié le dossier ? Savons-nous où nous allons mettre les pieds ? Pourquoi faire ? Et savons-nous, avons-nous évaluer les risques éventuels. Parce que Philippe Courard me posait une question. Comment faire arriver le matériel ? C'est tout de même étonnant. Là, nous n'allons pas arriver directement avec les avions qui vont se poser sur l'aéroport de Boulia, parce que la zone n'est pas sécurisée. Alors, d'après ce que l'on peut savoir, les échelons vont passer par la voie de terre, par l'Ouganda. Par l'Ouganda. Il faut donc les reconnaissances françaises de la semaine dernière sont passées en voiture par l'Ouganda. Depuis Kampala, sont remontées vers le lac Albert, ont traversé le lac et sont arrivées jusqu'à Bunia. Et il est fort probable que le ravitaillement va passer par l'Ouganda. Tant que la piste de l'aéroport de Bunia ne sera pas réhabilitée, tant qu'on ne contrôlera pas complètement l'aéroport, puis c'est vraiment un aéroport qui est au milieu du néant. Hein. C'est tout à fait dangereux, parce que n'importe quel guérilleros un peu armé avec un missile solaire à 30 km de l'aéroport peut faire des dégâts.
Ils disposent de moyens comme ça, les acteurs sur place.
Bien sûr. Le Rwanda dispose de ça. L'Ouganda dispose de cela.
Oui. On l'a vu, le Rwanda, avec quand l'avion d'Abiyar a été abattu.
Mais le Rwanda dispose de tout. Le Rwanda a une armée hyper moderne. Le Rwanda dispose de tout. Il suffit, vous savez, qu'il y ait une attaque sur un avion, ce sera embêtant. Non, c'est une situation qui est intéressante et qui présente des risques. Espérons que ces risques ont été bien pesés. Alors à ce moment-là, parfait, nous souscrivons parfaitement à cette opération. Alors,
oui. Au mois d'avril 1942, André de Maison a écrit dans un livre qui s'intitule « Le sens du conflit », « L'Afrique sera le jardin de l'Europe ou alors l'Amérique cherchera à s'en emparer ».
L'Amérique ne cherchera pas à s'emparer de l'Afrique. Pour une raison très simple, c'est que les Américains sont des réalistes. Et l'Afrique ne les intéresse pas. Ce qui intéresse les Américains, c'est le pétrole africain. Or, le pétrole africain est en mer. Alors, je reprends le terme offshore, c'est le terme officiel. Donc, il est en mer. Ce qui fait que les Américains vont contrôler, effectivement, le pétrole en mer. Et ailleurs, ils vont essayer d'avoir deux ou trois points d'influence, comme aujourd'hui à Djibouti, un point très limité, qui est leur base pour rayonner contre les mouvements terroristes de la région. Ils vont pouvoir s'implanter ici ou là, mais les Américains ne vont pas chercher à prendre pied dans l'intérieur du continent africain, car cela ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est le pétrole. Et par bonheur pour eux, le pétrole africain est essentiellement au large, loin des côtes, donc loin des luttes tribales. Ils laisseront aux Français, en revanche, bien volontiers, l'exploitation du pétrole dans les zones pourries de l'intérieur du continent.
Madame Alliot-Marie a précisé cet après-midi à l'Assemblée nationale, opération début juillet, avec importante participation de blindés, d'artillerie et couverture aérienne, Mirage, commandement à Paris. Il y aurait 250 rotations et il faut 40 jours de mise en place, ce qui prouve l'efficacité de la politique française.
Très bien.
Alors là, une petite critique.
Ah oui, mais oui.
Arrêtez de prendre les officiers pour des cons, ou pardon, c'est pas moi, c'est lui.
Et de dire
qu'ils ne connaissent pas le terrain sur lequel ils s'engagent.
Mais je me dis cela, monsieur.
Ce n'est pas parce que vous ne dirigez pas l'armée française que celle-ci est incompétente. Sa valeur reste intacte.
Mais monsieur, c'est une question d'imbécile. C'est une question d'imbécile, car je n'ai jamais dit cela. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit une chose pareille. J'ai dit exactement le contraire. Je dis que les civils qui envoient les militaires sont des incompétents et qu'ils envoient sur le terrain des gens en leur disant « maintenant, débrouillez-vous ». Alors, monsieur, genre de question, Victoire, genre de question, de débile, je n'en veux plus.
C'est pas une question,
c'est pas une question. Mais c'est le contraire de ce que je dis depuis le début de l'émission et depuis je fais des émissions ici, enfin.
Et voilà maintenant une suggestion. Pourquoi Bernard Lugan ne demande-t-il pas audience à Dominique de Villepin ? Il pourrait l'aider.
D'accord.
Et puis, il y a aussi une question.
Ah, merci, un auditeur. Merci, cher auditeur, qui vient de m'envoyer des photocopies de dépêches sur l'UPC et Bounia. Je remercie cet auditeur. C'est très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Une documentation qui va être très utile.
Et puis, là, un auditeur, c'est à propos de l'enterrement. Je trouve drôle qu'il n'y ait pas eu beaucoup de gens du Front National ce matin aux obsèques de Jean Nourrigat. Moi, je voudrais bien répondre parce qu'il y avait Jean-Marie Le Pen avec ses filles Yann et Marine. Martine Le Hideux, Jean-Claude Varane, directeur de National Hebdo, Françoise Monestier et bien d'autres. Il y avait aussi Marie-Caroline Le Pen, Catherine Maigret était là pour le MNR. Une dernière fois, Jean Nourrigat avait su réunir la famille nationale avec aussi toutes les autres composantes.
C'était une des grandes forces de Jean Nourrigat, oui. Qui était un homme qui n'était pas un homme de clan, au sens péjoratif du terme, c'est un homme de camp. C'est-à-dire qu'il était, il rassemblait autour de lui, même s'il avait peut-être des préférences ici ou là, mais il avait conscience d'appartenir à une grande famille. En d'autres termes, dans notre famille, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui vont toujours vers le plus petit commun dénominateur. Il y a ceux qui s'intéressent uniquement aux luttes intestines et picrocholines, ceux dont le principal intérêt est de flinguer le voisin le plus proche, parce qu'on le connaît bien, c'est plus facile, et puis il y a ceux qui sont des rassembleurs. Et parmi les rassembleurs, il y avait Jean Nourrigat. Et c'est en ce sens que je disais que nous avons perdu quelqu'un qui nous était très cher et quelqu'un qui était indispensable.
Et tous ceux qui étaient là ce matin étaient là pour justement l'amitié qu'il lui portait.
Oui, tout à fait, tout à fait. Bien. Alors, je me suis emporté avec cette question d'éditeur, tout simplement parce que c'est énervant d'entendre des gens qui vous posent des questions sur le contraire de ce que vous avez dit et qui doivent être totalement autistes et qui ne croient que ce qu'ils croient vouloir entendre. De temps en temps, il faut leur dire « Allez vous faire déboucher les oreilles chez un bon otorino ». Ça fait du bien, vous savez. Bon. Alors,
chez nous.
Bon, peut-être une dernière question là. Tout à l'heure, Bernard, vous évoquiez le fait que les Hima, les Ndous et ces diverses populations regardaient vers l'est. Vous avez bien expliqué pourquoi. Évidemment, ils regardent plus vers l'ouest parce qu'il n'y a plus rien à voir. J'ai l'impression.
Il y a la forêt.
Alors, qu'en est-il de ce Congo ex-Zaïre, de cette République démocratique du Congo qui paraît plongé dans un néant assez abyssal.
Philippe. Vous ne voulez tout de même pas... Enfin, quelle est la géographie de ce pays ? Vous êtes dans cette Afrique centrale, centre-orientale, en présence de deux mondes. Vous avez un monde qui est tourné vers l'est, c'est-à-dire vers l'océan Indien, et qui a le dos à la forêt. Le néant forestier... Nous saluons Dominique Vénère qui nous rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Dominique.
Qui surgit du néant forestier.
Oui. Vous avez à l'ouest le néant forestier, la sylve étouffante, écrasante, et vous avez à l'est les grandes ouvertures de savane, vous avez les grands plateaux, vous avez au-delà l'océan, les grands couloirs de migration de peuples. Donc il est naturel que les peuples ayant un destin historique dans cette partie de l'Afrique, regarde vers l'Est. D'où la grande erreur qui avait été commise par la France de Mitterrand. Quand Mitterrand s'était imaginé que parce que les Rwandais parlaient français depuis 50 ans, ils étaient tournés vers l'Afrique de l'Ouest qui était francophone, alors que toute leur histoire séculaire les tourne au contraire vers l'Afrique de l'Est qui est accidentellement anglophone, depuis 50 ans anglophone également. Les religions chrétienne, l'islam et les grands facteurs linguistiques importés en Afrique ne font que se surimposer aux réalités africaines, mais ne les expliquent pas. L'Afrique existait avant la francophonie. L'Afrique existait avant l'anglophonie. L'Afrique existait avant la venue des missionnaires. L'Afrique existait avant la venue de l'islam. L'Afrique noire. Donc, il y a des longues durées africaines et il ne faut pas confondre le résultat, les conséquences, les influences, les origines. Nous sommes toujours dans un problème de sémantique. Nous sommes toujours dans un problème de définition.
Oui, elle a ses logiques géopolitiques et c'est justement tout l'intérêt de vos analyses de les mettre en lumière.
Oui, voilà. Je vous remercie. Alors donc, chers auditeurs, si vous voulez davantage connaître les affaires de l'Itouri, je vous engage à vous abonner à l'Afrique réelle, puisque le prochain numéro qui sort dans 15 jours, 3 semaines, va être en grande partie consacré à l'Itouri, également à la Guinée. Gros dossier sur la Guinée, nous n'en parlons pas aujourd'hui parce que la Guinée est un pays qui risque de poser de gros problèmes dans un avenir relativement proche. Alors nous avons une grosse étude de fond qui est faite sur la Guinée et sur les problèmes guinéens. Et dans ce numéro, nous rendons hommage à un grand ami, enfin un grand connaisseur de l'Afrique et un grand ami de l'Afrique réelle qui est mort et qui a été enterré il y a peu de temps, Paul-Henri Sirieix, qui fut gouverneur de la Guinée, qui fut un des premiers à rejoindre le général de Gaulle en 1940, qui avait fait les combats d'Érythrée, un homme tout à fait extraordinaire, qui est un très très grand connaisseur de l'Afrique et de la Guinée, et qui nous avait donné, il y a 3 ou 4 ans, une étude tout à fait remarquable sur la Guinée, pays qu'il connaissait admirablement, puisqu'il en avait été, je crois, son avant-dernier gouverneur à l'époque de la colonisation. Et nous republions donc cette enquête, plus en l'élargissant, bien sûr, avec l'actualité. Voilà, nous parlerons tout à l'heure de l'adresse de l'Afrique réelle. Et je crois, Victoria, que nous avons une question fort intéressante. Il y a d'autres questions sur l'Afrique ?
Pour le moment, c'est tout, mais là on change un peu de sujet.
Voulez-vous que nous fassions des annonces importantes à faire ?
On peut les faire, oui, tout de suite.
Oui, écoutez, oui. Ben, allez-y, Victoria.
Où est le début ?
Alors,
commençons à tout seigneur, tout honneur, Serge de Beketch. Le libre journal de Serge de Beketch fêtera son 10e anniversaire le dimanche 15 juin de 10h à 18h à la Maison des Aveugles de Guerre, 49 rue Blanche, Paris 9e. Entrée gratuite. De nombreux écrivains amis signeront leurs ouvrages, parmi lesquels Jaurès Paille, Vladimir Volkov, ici présent Dominique Vénère, Philippe Conrad, etc. Cette vente de livres sera suivie d'un dîner pour lequel il reste encore quelques places. Alors le prix est de 50 euros. Pour vous inscrire, vous envoyez vos chèques à SDB 4 Place Franz Liszt. Paris, 75-010 Paris.
Mais on peut venir à la dédicace sans aller au dîner.
Non, non, il y a deux choses. Hein. Il y a l'entrée, les livres, les signatures, la vente de livres, tout. Et puis après, ceux qui veulent dînent. Ils peuvent, tout le monde ne peut pas dîner parce qu'il y a, je crois qu'il n'y a qu'une centaine de places. Donc, si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous tout de suite.
Bien, puis, on en reparlera tout à l'heure. Oui.
Alors, le jeudi 5 juin, à 20h30, salle Lumière, 4 place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e, dans le cadre des conférences de Saint-Germain organisées par la Librairie Nationale, conférence de Jean-Gilles Maliarakis sur le thème « La Turquie, l'Islam et l'Europe ».
Ah, c'est très intéressant. L'ami Jean-Gilles va être, comme à l'habitude...
Alors... On nous signale l'existence du site internet, attention, tout ça vous marque, www.maréchal-pétain.com. Il est dirigé par le général Le Groignec, Hubert Massol et Yann Claire. C'est également un souvenir du père tranquille.
Ah oui.
Et puis j'en ai deux autres, mais j'ai pas lu les choses tout à l'heure.
Nous parlerons de l'annonce du cercle franco-hispanique, nous parlerons tout à l'heure de l'Espagne, puisque j'ai oublié de le dire aux éditeurs, le cœur de l'émission tout à l'heure va être consacré justement à l'Espagne, puisque nous fêtons un anniversaire important aujourd'hui, et nous fêtons le 100e anniversaire de la naissance de José Antonio Primo de Rivera. Donc nous en parlerons tout à l'heure. Bien, Victoria, quelques messages sur l'Afrique, on en termine.
Officier français concerné par l'Afrique, Monsieur Lugan, je peux vous assurer que vous êtes lu attentivement dans les états-majors et les services extérieurs, et que l'Afrique réelle fait partie des documents les plus consultés et pris en compte.
Eh bien voilà. La réponse à la question de tout à l'heure.
Que vous disiez tout à l'heure.
Pour moi, nous dit cet autre auditeur, en tant que nationaliste européen, alsacien, je n'attache aucune importance à l'avenir de l'Afrique. C'est par notre travail assidu en Europe que l'on peut devenir une grande puissance européenne.
Voilà. Crevons-nous les yeux, crevons-nous les oreilles, soyons dans la cécité totale et marchons de nuit et dans le brouillard. Et avec ça, nous avons une chance de gagner et d'arriver au bout. Cher monsieur, c'est le décalage horaire qui fait que si l'on n'est pas présent sur les frontières, la frontière se trouve chez vous et dans votre lit peu de temps après. Et il est bien évident que les presidios, nous n'en parlons pas de l'Espagne, sont les moyens de tenir des positions avancées, car une position avancée permet aux autres de ne pas faire votre position en position reculée, si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est de l'aveuglement complet, du nombrilisme auquel je ne souscris pas. Et Dominique Vénère avait fort bien expliqué cela lorsque nous avons fait l'émission sur l'Algérie, en disant que, à l'époque, nous pouvons bien entendu critiquer ou pas l'affaire de l'Algérie française. Mais à l'époque que nous étions présents en Algérie, et il n'y avait pas...
Les frontières se défendent au-delà des mers.
Exactement. Et les frontières intellectuelles également, et je vais vous en parler, car je vais vous parler de Los Angeles. Je vais vous parler de ce que j'ai vécu là, à Los Angeles. Je vais vous parler de cela. Deux mots. Car je ne vais plus beaucoup parler, car ayant pris en 3 jours un décalage horaire considérable, je ne sais plus si je suis le matin, le soir. Je reviens d'un événement qui montre à quel niveau en est tombée la pauvre France. Je reviens de la plus grande foire du livre au monde. C'est la foire du livre de Los Angeles, américaine. Enfin, c'est Los Angeles cette année, l'an prochain ce sera Chicago, ça change tous les ans. Pour donner une impression, la foire du livre de Paris tiendrait dans la moitié d'un des 4 pavillons de la foire de Los Angeles. Tout ce qui compte dans l'édition anglo-saxonne est là. Que des professionnels. Le public n'est pas admis. Il y a des dizaines de milliers de personnes, que des professionnels. Auteurs, éditeurs, acheteurs, bibliothécaires. Car les libraires anglo-saxons fréquentent les foires du livre pour discuter avec les auteurs. Ils se renseignent, Il se contente pas d'ouvrir les boîtes qui arrivent, de les poser, de prendre 50% et de renvoyer les invendus. Non, ils font leur travail. Ben, l'auteur gagne 8%, mais celui qui ouvre la boîte et qui met en vitrine et qui souvent ne met pas les bons livres en vitrine à 50%, ce sont les tarifs hein, qui gagnent de l'argent dans l'édition. Ce sont les revendeurs, ce sont pas les auteurs, bon, ni les éditeurs. Alors voilà comment
c'est vrai en France aussi.
C'est en France comme ça. Alors voilà comment c'est passé. Je vais vous raconter cette foire du livre. C'est un événement qui est mondial. J'étais le seul auteur français. Vous m'entendez bien, le seul auteur français. Il y avait un deuxième auteur de la maison. Il n'y avait que deux éditeurs français. Le guide Michelin, parce que ce sont des gens intelligents, parce qu'ils font des cartes. Le guide Michelin était là. Avec le bonhomme Michelin et mon éditeur Carnot. Nous étions les deux seuls éditeurs français. Alors, je vais maintenant vous expliquer comment étaient les autres pays. Les Espagnols avaient 4 allées complètes. Les éditeurs espagnols avaient 4 allées complètes. C'est-à-dire, à peu près, un petit quart du Salon du Livre de Paris. Les Français étaient tout de même présents. Il y avait un pool d'éditeurs français qui s'étaient regroupés sur un stand. Ce stand était plus petit que le stand de la Thaïlande. Il y avait le stand de la Thaïlande et le stand de la France à côté. Le stand de la Thaïlande, d'abord, avait des livres plus récents, plus beaux, et le stand était plus grand que le stand français. Et le stand français était tous les éditeurs français, hein, tous les éditeurs regroupés. Alors, j'ai été très heureux de voir qu'il y avait un des livres édités par mon grand ami, vraiment vieil ami Jean Picolet, qui avait le livre sur Ben Laden, qui était là. Pour le reste, tous les fonds de tiroir. Et savez-vous quel était... Alors, mes chers auditeurs, vous êtes assis sur vos chaises, vous êtes bien assis sur vos chaises. Savez-vous quel était le livre phare qui était présenté dans une des 4 petites vitrines de l'édition française ? Nous sommes à un moment où les relations avec les États-Unis ne sont quand même pas tout à fait excellentes. Eh bien, le livre qui était présenté, c'était l'histoire des viols commis en France par les GIs en 1944-45. Voilà ce que présentait la France à la foire du livre de Los Angeles. Après, on s'étonne qu'on nous prenne pour des rigolos. Après, on s'étonne qu'on n'existe plus. Et je vous garantis que j'ai été chaleureusement accueilli. J'ai discuté avec des dizaines de libraires. On travaille comme ça dans ces foires du livre. En France, l'éditeur envoie des livres de presse. 50% de ces livres presse se retrouvent dans les 8 jours vendus chez les bouquinistes. Car les salles de rédaction se font leur fin de mois en revendant ces livres. Nous sommes tous témoins d'avoir retrouvé nos livres dédicacés vendus chez les bouquinistes 8 jours après. Bon, c'est pour ça que je ne fais plus de dédicaces de presse, sauf aux amis, car les livres sont revendus. 25% de livres n'arrive jamais à destinataire, donc ça nous fait 75%, et 25% dorment ou ne sont pas lus. Aux États-Unis, comment se passe, et dans le monde anglo-saxon, comment se passe le système ? Pas du tout. Comme cela. L'on fabrique ce qu'on appelle des galets, c'est-à-dire des épreuves, sur un papier tout à fait ordinaire, avec un grand titre, exemplaire non corrigé provisoire pour consultation. Non corrigé, provisoire. Donc, ce sont des petits livres, comme des petites thèses, réduites, et on en fait des centaines. Et dans ce salon du livre, vous avez, écoutez-moi bien, chaque auteur qui le demande a droit à une demi-heure. Et là, vous avez une esplanade gigantesque, à peu près grande comme le palais des sports. Et vous avez des pupitres surélevés, place pour une personne debout et une personne assise, l'auteur. Car vous avez quelqu'un qui vous passe les exemplaires, que ça va très vite. Et en permanence, sur des immenses écrans de télévision, sont affichés les noms des auteurs qui sont présents. Le programme est connu 3 jours à l'avance. Et là, vous avez des files de libraires, d'éditeurs et de journalistes qui se constituent en face de vous. Les gens ont consulté sur une liste auparavant ce qui les intéresse et ils viennent. Et ils viennent vers vous, mais ça va très vite, on discute pas, parce qu'il n'y a qu'une demi-heure. Vous leur signez, pas de dédicace, vous signez simplement le galet, et ils partent avec. Et ils vont vous faire un article dans la presse. Ils vont vous commenter. Moi, j'ai vu des dizaines de bibliothécaires. J'ai notamment vu la responsable des bibliothèques de Californie, vous savez ce que c'est que les bibliothèques de Californie, qui m'a dit qu'elle allait faire commander mon livre par toutes les bibliothèques de Californie. En France, il y a 1700 bibliothèques. Dans les 1700 bibliothèques, j'aimerais savoir combien il y a de commandes de livres. Le filtre idéologique se fait. J'ai eu en face de moi une vingtaine de journalistes noirs américains, ce qu'on appelle les afro-américains. Mon livre est très dur pour les afro-américains. Ils savent ce qu'il y a dans mon livre. Mais aucun problème. Ils sont venus le prendre. Parce qu'ils vont en parler. Parce qu'eux vont en discuter du livre. Il n'y a pas les blocages intellectuels qui tuent cette société française. Et je suis revenu. Je savais très bien au départ que l'édition française était très mal. Mais je suis revenu en disant, mais la pauvre édition française, qui a un stand à la plus grande fête du livre au monde, plus petit que le stand de la Thaïlande, quand les Espagnols ont quatre rangées complètes de livres, quand chaque université américaine présente un stand qui est deux fois plus important que l'ensemble de l'ensemble des éditeurs français, ben vous vous dites, là il y a un gros problème. Et c'est pour cela que je suis ravi de pouvoir être édité aux États-Unis et dans le monde anglo-saxon. Au moins, je ne serai pas bloqué par les trotskistes qui tiennent les bibliothèques, qui tiennent les radios françaises. Aux États-Unis, je ne serai pas censuré comme sur France Culture l'autre jour, lorsque mon émission a été interdite, il y a trois semaines. Je ne serai pas interdit comme M. Delannoy m'a interdit la mairie de Paris pour signer mes livres. Voilà. Ce pauvre pays de France qui en est tombé bien bas. Un stand plus petit que celui de la Thaïlande. France, mère des arts, des armes et des lois. Le nombrilisme. On refuse de voir. C'est la question de tout à l'heure. Moi, je suis nationaliste alsacien. Alors moi, la Bourgogne, j'aime pas. Et puis la Flandre, bon, ça va bien parce que bon, ils peuvent habiller comme nous, mais autrement, c'est absolument aberrant. C'est le nombrilisme. On crève. C'est une implosion intellectuelle. On explose, on implose. Comme un sous-marin qui se retrouve à 3000 mètres, vroom, entre lame et lamelle. Voilà ce que je voulais dire sur ce beau voyage aux États-Unis. Alors, ceci étant, Los Angeles est une ville dans laquelle on ne parle plus anglais. Heureusement, je parle espagnol. Donc, à Los Angeles, on ne parle qu'espagnol. Les Mexicains ont repris leur territoire traditionnel. Vous êtes vraiment... La Californie est un état du Mexique, ça c'est certain. Et c'est tout à fait étonnant. Bien. Fin de la parenthèse, je me suis fait encore beaucoup d'amis et je suis ravi des réactions que je vais provoquer. De toutes les façons, en vieillissant, je commence à devenir intolérant. Bien, c'est le privilège de l'âge. Victoria.
Répondez-nous à cet auditeur qui vous demande, pourriez-vous nous dire où vous en êtes avec vos combats en justice ?
Ah, je vais réserver cette dernière nouvelle, avant de passer donc à la suite de l'émission, une grande nouvelle... Du feuilleton, car c'est un feuilleton.
C'est un feuilleton.
Nous en étions restés à l'épisode précédent. Rappel pour nos auditeurs des épisodes précédents. Fête du livre du Figaro Magazine, il y a 2 ans, M. Delannoy téléphone à M. de Chaise-Martin, ou fait téléphoner à M. de Chaise-Martin, président du Figaro et du Figaro Magazine, pour lui dire qu'il ne voulait pas de ma présence à la fête du livre du Figaro Magazine, alors que j'avais été invité, etc. Après en avoir discuté avec mon avocat, l'idée géniale jaillit de nos cerveaux féconds, qui est d'utiliser la loi que les gauchistes ont fait voter pour nous nuire contre eux, la loi sur l'exclusion. Cette loi qui a été faite pour permettre justement de faire condamner les patrons de boîtes de nuit qui interdisent l'entrée des boîtes de nuit à des gens qui pourraient ne pas correspondre à la clientèle générale et homogène de la boîte, eh bien cette loi... Je l'ai retourné contre M. Delannoy. Si j'ai été écarté, c'est parfait discriminatoire. Discriminatoire, pourquoi ? M. Delannoy n'aimerait-il pas mes grandes moustaches ? Non, ce n'est pas discriminatoire. Que M. Delannoy n'aime-t-il pas chez moi ? Et M. Delannoy l'a dit. Je serai un partisan de l'apartheid... Et j'aurai une vision ethnique de l'Afrique. Crime abominable. J'ai une vision ethnique de l'Afrique. Je dis que la Terre est ronde et je dis que ce verre est en verre et n'est pas en pâte à modeler. Crime absolu. C'est donc une discrimination. J'ai donc porté plainte au chef de discrimination. Et le parquet, enfin le juge d'instruction, fait son travail. auditions, confrontations, etc. Et M. de Chaise-Martin, probablement par grande générosité, et pour faire plaisir à M. Delannoy, a tout pris sous son chef. Il, maladroitement, il ne pensait pas que la suite pouvait arriver. Et une lettre, en disant, mais je ne comprends pas du tout ce qui a pu se passer. M. Delannoy n'est pas du tout intervenu, c'est moi qui ai interdit à Bernard Lugan de venir. Ah bon, mais pour quel motif? Et au motif que les idées de Bernard Lugan ne correspondent pas du tout à la ligne éditoriale du Figaro. Donc il y a discrimination. C'est un motif d'idées politiques, réelles ou supposées. Ce qui est quand même étrange, étant donné que 3 semaines avant, le Figaro Magazine m'avait demandé un grand article sur le bilan colonial de la France. Alors subitement, en 3 semaines, M. Chaise-Martin avait dit auparavant qu'il n'avait jamais rien lu de moi. Ça prouve qu'il ne lit pas son journal. Mais ça ne m'étonne pas des grands patrons de presse qui ont autre chose à faire que lire leur propre journal. Leurs journaux ne sont que des supports de publicité, alors ce que décrivent les journalistes, l'intérêt est tout à fait secondaire. Eh bien, mes chers auditeurs, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Depuis la semaine dernière, M. de Chaise-Martin est mis en examen, officiellement, au chef de discrimination. Inutile de dire que les colonnes du Figaro ne sont pas prêtes de mettre ouvertes pendant un bon moment. Mais je dois dire que je suis bien content. Alors j'attends la suite des événements, car le parquet ne s'en tient pas là. Le parquet a demandé au juge d'instruction de poursuivre l'enquête. Bon, M. Chaise-Martin est donc mis en examen, mais le parquet demande au juge d'instruction de poursuivre l'enquête afin de savoir qui, à la mairie de Paris, avait donné l'ordre au vigile de me refouler et qui avait fait distribuer au vigile de la mairie de Paris un document avec ma photo, avec la mention écrite en dessous, ne laissez entrer sous aucun prétexte. La confrontation de Delannoy et Chaise-Martin, lorsqu'il y aura une éventualité judiciaire au bout, risque d'être fort amusante et je ne manquerai pas de communiquer aux auditeurs le lieu de l'audience pour qu'un grand public vienne s'amuser et de voir comment les requins partagent la même baignoire. Et là, nous allons voir la suite. C'est le combat du lion et du moustique. Je fais le moustique, mais et voilà. Je dois dire que ils doivent être horripilés. Et moi, je ne céderai pas, de toute façon. Et nous irons jusqu'au bout. Car nous n'allons pas laisser ces beaux messieurs transformer ce pays en pays dictatorial. J'en veux moins à M. Delannoy qu'à M. de Chaise-Martin. Car M. Delannoy est M. Delannoy, c'est clair et net. Mais M. de Chaise-Martin est le patron de gauche d'un journal dit de droite. Et ceci, il suffit de voir ce qu'est devenu ce pauvre Figaro depuis un certain temps. Et ceci est tout à fait emblématique de la dérive libérale des milieux dirigeants de ce pays. Aligné complètement sur ses adversaires, vendant à ceux qui vont les pendre la corde qui servira à les suspendre. Voilà, Victoria, je voulais donc annoncer de bonnes nouvelles aux auditeurs. Il y a des bonnes nouvelles dans l'existence, quand même. Nous avons commencé par une triste nouvelle ce matin, et là, une bonne nouvelle. Monsieur de Chaise-Martin, patron du Figaro, est mis en examen. Et d'un, au suivant, Victoria.
Est-ce que vous voulez revenir sur l'Afrique ?
Oh, écoutez, Victoria, si vous voulez, là, je commence à avoir sommeil.
Pouvez-vous nous dire si les mines du Katanga sont toujours exploitées ? Si oui, par qui ? Sinon, pourquoi ne le sont-elles plus ?
Oui, elles sont en partie exploitées, notamment la frontière entre l'avancée des Tutsis il y a un an et demi du Rwanda et la zone défendue par l'armée du Zimbabwe est passée très exactement à la hauteur des mines du Kasaï et du Katanga. Ces mines sont bien sûr exploitées par un pool anglo-belgo-américano-international et avaient été longtemps gardées par les troupes zimbabwéennes. Voilà.
Que pensez-vous de la politique africaine de la France, en particulier des différents voyages de notre ministre des Affaires étrangères ?
Un ministre des Affaires étrangères est fait pour voyager. Donc, il est normal qu'un ministre des Affaires étrangères se rende, un ministre de l'Intérieur se rend en Corse, un ministre des Affaires étrangères se rend à l'étranger. C'est normal.
Bien. Et pour vous réveiller, pardon,
oui.
Est-ce que vous pouvez résumer en quelques phrases, hein, seulement en quelques phrases, votre thèse de God Bless Africa ?
Oui, ma thèse de God Bless Africa est très simple. Les problèmes africains viennent essentiellement de l'approche idéologique que les Européens et les Américains ont de l'Afrique. Approche idéologique qui repose sur le postulat individualiste, car nous sommes des individualistes et nous projetons sur des sociétés communautaires des définitions politiques qui sont individualistes. Et on s'étonne que ça ne marche pas. Tout simplement parce que les mondes africains sont des mondes qui sont des mondes de groupe. La notion d'individu n'existe pas. Voilà le grand problème. Et j'explique dans God Bless Africa que l'Afrique va continuer à s'enfoncer tant que nos idéologies continueront à être plaquées sur elle. Et j'ouvre des directions de recherche de solutions par un retour à la tradition africaine et surtout par le remplacement de l'assassin au un homme, une voix, one man, one vote, par le vote communautaire. Voilà le thème du livre. Une petite pause musicale et nous allons passer à la partie suivante. Alors, des chants corses, des polyphonies corses. Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Serge de Beketch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Avant la coupure technique de 7h30, Victoria va nous faire un certain nombre d'annonces. Alors, à vous, Victoria.
Comme chaque année à la Pentecôte, l'association Notre-Dame de Chrétienté organise son 21e pèlerinage de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres et vous attend les 7, 8 et 9 juin prochains pour marcher sur le thème brûlant d'actualité « Chrétienté, vocation de la France ». Toutefois, si votre âge ou votre condition physique ne vous permet pas d'entreprendre cette longue route, si vous souhaitez pouvoir pèleriner en famille avec les plus petits, les plus âgés ou les plus fragiles, des chapitres vous sont tout spécialement réservés cette année, les chapitres familiaux. Limité permettant à 10 ou 20 km par jour des étapes écourtées et aménagées, mais bien ancrées au cœur du pèlerinage. Alors à vos poussettes, rendez-vous sur les routes de Chartres pour toute information, Notre-Dame de Chrétienté, 49 avenue de Paris à Versailles, téléphone 01 39 07 27 00, je répète, 01 39 07 27 00. Et puis...
Ah, cercle franco-hispanique, très important.
À l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de José Antonio Primo de Rivera... je déteste les accents. À l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de José Antonio Primo de Rivera, chef de la phalange espagnole et du 70e anniversaire de la fondation de la phalange, le cercle franco-hispanique organise un colloque le 21 juin de 10h à 17h sur le thème... José Antonio Primo de Rivera, toujours présent. Stand, présentation pour la première fois en France du film réalisé par Domingo González Hernández, avocat, sur José Antonio Primo de Rivera. Et lecture du texte inédit d'Arnaud Imatz, historien et écrivain, La troisième voie José Antonienne. Avec la participation de Jérôme Bourbon, journaliste, Philippe Conrad, salué, historien, Domingo González Hernández, avocat, Arnaud Guyot-Janin, journaliste, le professeur Jean-Paul Leflemme,
mon vieux camarade Jean-Paul Leflemme,
Pierre Sidos, président de l'œuvre française, Jean-Claude Vallat, écrivain, et Olivier Grimaldi, président du cercle franco-hispanique.
À l'adresse
L'adresse,
juste rien. Pour tout renseignement, écrire au cercle franco-hispanique.
Et le cercle franco-hispanique, vous le trouverez. Où ça?
Ici,
où
Victoria, en
boîte rouge. Postale.
Sous la phalange.
Boîte postale 337 16 75 767 Paris CEDEX 16 France. Je répète, boîte postale 337 barre de fraction 16. 75 767, Paris CEDEX 16, France, donc.
Bien.
Voilà, il s'agissait.
Une dernière annonce avant la coupure, Victoria.
Une petite annonce,
avant
peut-être.
Une
petite adresse, Afrique Réelle, boîte postale 6, 03140 Charroux, CHA20X. L'abonnement de 58 euros pour recevoir les quatre publications annuelles.
Je précise donc que le numéro 39, qui sera délivré aux abonnés au tout début du mois de juillet, est un numéro qui comportera un gros dossier sur l'Itourie, précisément. Qui sont les peuples de l'Itourie, quelle est cette région de l'Itourie, et un gros dossier sur la Guinée également. Un troisième dossier est en réserve, en fonction de l'actualité, il y a plusieurs possibilités. Nous verrons cela au dernier moment. Alors nous allons rendre l'antenne en régie pour cette coupure traditionnelle de 7h30.
Agnus Dei, quitalis peccata mundi. Mondi miserere nobis.
Agnus Dei, quita miserere nobis.
Merci de passer la soirée en notre compagnie. Prochain rendez-vous musical à 21h ce soir, série jazz. À 22h, les musiques de films avec Claudio. Et à 23h, la musique de Respighi. Vous entendrez les Fontaines de Rome. Donc tout cela à partir de 9h ce soir. Et puis tout de suite, la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Beketch. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est précisément 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 4 juin 2003 de 18h à 21h, en différé jeudi 5 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le Libre Journal de Serge de Beketch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. Victoria est en train d'insister, me montre des questions qui arrivent sur l'Afrique. Non, je vois le petit sourire en coin de Victoria. Que nous prépare-t-elle, cette chère Victoria? Allez, je vous laisse une minute.
Très bien. C'est un auditeur qui vous dit qu'elle pêche ce soir, monsieur Lugan. Vous dites que c'est à cause du décalage horaire? Eh bien, il faudrait que vous soyez décalé horairement avant chacune de vos émissions.
Laissons le miel de la louange couler, c'est agréable de temps en temps. Voilà, merci cher auditeur.
Bravo, ça c'est une auditrice. Ah bon? Bravo monsieur Lugan pour votre combat contre le Figaro. Oh. Le Figaro perdra encore un procès, mais il ne s'en vantera pas dans ses colonnes. Continuez le combat.
Ça c'est sûr.
Et alors, un auditeur nous signale que le Figaro, justement, aujourd'hui, annonce le décès de la maréchale de Lattre de Tassigny. Ouais. Et il semble qu'aucune radio ou télévision ne l'ait
fait. Je l'ignorais totalement. C'est une très grande dame qui nous quitte. Bien, nous pourrons peut-être parler du maréchal dans une émission, n'est-ce pas, Dominique?
Ce sera un très beau sujet.
Oui, mais nous allons retenir cette idée. Chers auditeurs, nous allons maintenant aborder la deuxième partie de l'émission. C'est une émission aujourd'hui qui a été un peu décousue parce que je vous ai parlé de choses pas directement intéressantes, Los Angeles, etc. Puis le début de l'émission était bien triste avec le rappel et l'hommage à Jean Nourigat. Revenons véritablement dans le cadrage de notre émission. Alors nous allons parler aujourd'hui, pas tellement de l'Espagne, mais pas directement de l'Espagne. Nous allons remettre l'histoire à l'endroit, une fois de plus, comme nous le faisons dans nos émissions. Et nous allons remettre l'histoire à l'endroit à propos de l'Espagne, et à propos de la vision que Dominique Vénère qualifie de vision borgne de l'histoire de la guerre d'Espagne, Avec cette présentation toujours outrancièrement outrancièrement laudatrice de ce que furent les brigades internationales. Un peu comme si, durant cette guerre d'Espagne, il n'y avait eu que des trotskistes et des communistes qui se soient engagés dans la lutte, oubliant complètement les contingents étrangers qui combattirent chez les nationalistes, chez les carlistes, chez les phalangistes, nous parlerons de tout cela. Et le prétexte réaction qui nous est donné face à ce sujet est précisément l'exposition qui se tient où ? Aux Invalides. Aux Invalides, chers auditeurs, aux Invalides, où se tient l'exposition de photos des brigades internationales. On voit véritablement que la pourriture avance bien, la tête est largement touchée. Aux Invalides, une exposition sur les brigades internationales. Il eût été décent aux Invalides qu'il y eut certes une exposition sur les brigades internationales, mais sur un thème peut-être un peu plus élargi, les combattants étrangers dans la guerre d'Espagne, avec des salles entières consacrées aux brigades, mais également des salles entières consacrées à ceux qui combattirent ces brigades, notamment les volontaires de la Bandera Jeanne d'Arc, les volontaires italiens, les volontaires allemands, les volontaires russes. Non, nous avons la vision hémiplégique, le bien, le mal. Le mal, on n'en parle pas. Et le bien, on le loue en permanence. Et le bien, c'est ce qui est trotskiste, ce qui est gauchiste, ce qui est marxiste, ce qui est dans le camp de la Révolution. Exposition aux Invalides sur les brigades internationales. Je ne désespère pas que les Invalides nous présentent bientôt, dans 10 ans, une exposition à la gloire du FLN. Pourquoi pas ? On pourrait très bien avoir une exposition aux Invalides, vie et louange de Yacef Saadi, une émission, une exposition sur les porteurs de valises. Monsieur Vidal-Naquet serait là, en pied, statufié probablement aux Invalides. Ce serait tout à fait parfait.
Alors il faut préciser, pour éviter quand même une confusion, que c'est dans le cadre du musée d'histoire contemporaine qui est présenté cette exposition, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le musée de l'armée et avec le ministère de la Défense.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais c'est aux Invalides. Mais c'est aux Invalides. Et l'Institut d'histoire contemporaine, nous savons très bien ce qu'est l'histoire contemporaine. J'ai siégé pendant 4 ans au Conseil consultatif des universités dans la section d'histoire contemporaine. Alors je sais ce qu'est l'histoire contemporaine et je sais quelles sont les tendances lourdes et étouffantes de l'histoire contemporaine, qui n'est d'ailleurs pas une histoire contemporaine, qui devient de plus en plus une histoire immédiate. Mais on ne sait plus quelle est la différence entre le journalisme et l'histoire contemporaine dans la section contemporaine. Et l'histoire contemporaine devrait s'arrêter au moment de la consultation des archives. La loi de consultation des archives devrait mettre le terme de la séquence contemporaine. Autrement, on fait du journalisme. Alors, chers auditeurs, à propos de cette exposition sur les brigades internationales, eh bien, nous allons essayer de voir quelle est la vision globale que l'on peut avoir, et non pas la vision hémiplégique, la vision borgne, qui nous est imposée dans cette civilisation de la France laïque, républicaine et toujours socialiste. Philippe Conrad. J'aimerais que vous nous brossiez rapidement, en historien que vous êtes, l'historiographie précisément de cette question. La guerre d'Espagne, revisitée. Car l'historiographie avance.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, vous avez employé une expression, la guerre d'Espagne revisitée, qui a été utilisée par l'un de nos amis, Arnaud Imatz, quand il a regroupé les travaux d'un certain nombre de chercheurs espagnols parmi les plus éminents, pour publier aux éditions Economica un livre qui a fait date, ou qui aurait dû faire date, car il apportait, il y a maintenant déjà une quinzaine d'années, la première édition, une vision radicalement renouvelée du conflit espagnol. Je m'explique, en France, notamment pendant plusieurs dizaines d'années après la Seconde Guerre mondiale, la lecture qui a été donnée de cette guerre civile espagnole a été effectivement, comme vous le disiez, tout à fait hémiplégique. La vision des choses était tout à fait manichéenne. D'un côté, les bons, bien sûr, le camp républicain et les bagages internationales participaient au mythe de cette république espagnole agressée par des factieux, par des fascistes. Et puis d'un autre côté, évidemment, le camp national était assimilé aux pires choses de notre histoire contemporaine, et le soutien qu'avaient apporté l'Allemagne et l'Italie aux insurgés franquistes, évidemment, était instrumentalisé pour dénoncer de manière définitive le camp national. Le fait que le général Franco soit resté au pouvoir en Espagne jusqu'à sa mort en 1975 ne faisait d'ailleurs qu'alimenter la passion anti-franquiste, ce qui nous a valu à l'époque certaines productions. Tout le monde se souvient sans doute du film Mourir à Madrid de Frédéric Rossif, qui était évidemment outrancièrement partial et partisan. Alors un ouvrage fondateur dû à un journaliste anglais, Hugh Thomas, qui est devenu ensuite un des historiens vraiment spécialistes de la question, apportait une vision un petit peu plus équilibrée au cours des années 60, mais il n'empêche que beaucoup de préjugés demeuraient, et l'interprétation de l'événement n'avait pas en fait beaucoup bougé. Les factieux avaient agressé la République espagnole par la force, l'armée appuyée par l'Église et par toutes les forces réactionnaires que l'on pouvait imaginer avait écrasé un peuple qui luttait pour sa liberté, soutenu par les militants admirables qui avaient été les combattants des brigades mobilisées à l'appel de l'Internationale communiste à l'époque. Alors les choses sont apparues sous un jour un petit peu différent, quand on a pris aussi de la distance en Espagne avec la lecture nationaliste de la guerre, qui évidemment elle aussi était partiale et partisane, ce qui était tout à fait compréhensible dans le contexte de l'époque. On s'est rendu compte par exemple que à peine un tiers de l'armée s'était engagé dans l'insurrection, que la marine, l'aviation étaient restées loyalistes, la moitié de la Guardia Civile également. On s'est rendu compte que cette guerre ne fut pas la guerre d'une armée contre un peuple, d'une armée insurgée, d'une armée dissidente contre un peuple, qu'elle a divisé profondément deux Espagnes, disposant chacune de bases populaires, importantes, issues d'une histoire conflictuelle engagée déjà depuis bien longtemps. On s'est rendu compte que les chiffres qui avaient été avancés à propos de cette guerre étaient généralement fantaisistes, que ce soit le million de morts qu'évoquait le romancier José María Rironella, ou bien alors que ce soit les fameux 200 000 fusillés d'après 1939 qui n'ont été en tout qu'un peu plus de 20 000. Voilà à peu près dans quel errement on s'était engagé en racontant la guerre d'Espagne. Alors on a revu et corrigé beaucoup de choses, y compris parmi les choses les plus sacrées. Par exemple, on a révisé très sérieusement, on a fait du révisionnisme, on s'excusait du mot, on a révisé très sérieusement l'épisode de Guernica, par exemple, d'une manière très approfondie, et on s'est rendu compte qu'évidemment, le nombre des victimes était considérablement inférieur à celui qui avait été avancé. On a mis en lumière aussi ce qu'avaient été les règlements de compte à l'intérieur du camp républicain, comment les staliniens, les communistes ont liquidé les anarchistes et les trotskistes du POUM à Barcelone en 1937, comment Andrés Nin a été emporté dans cette affaire. On a pu montrer aussi qu'en matière d'exécution sommaire, en matière d'assassinat pur et simple, eh bien, il y en a eu davantage dans le camp républicain, il y a eu davantage de victimes nationalistes, j'entends, que de victimes républicaines. Il y a donc eu en Espagne, en tout cas, une relecture d'ensemble des événements, ce qui explique en partie pourquoi l'Espagne post-franquiste finalement a relativement bien digéré cette histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 60-70, on prophétisait les pires développements après la mort du général Franco. Enfin, on en était à imaginer une nouvelle guerre civile. En réalité, les Espagnols, pour reprendre le jargon qui a cours actuellement, se sont plutôt bien réconciliés avec leur mémoire. Ils ont fait la part des choses et ils ont intégré en quelque sorte ce conflit civil, cette guerre civile terrible qui les a déchirés pendant près de 3 ans. Et la vision qu'ils ont réussi à établir des événements finalement est apparue relativement équilibrée, relativement impartiale. Mais il est intéressant de signaler que de ce côté-ci des Pyrénées, alors les choses ont fort peu évolué. J'évoquais l'ouvrage donc piloté par Arno Imatz, publié aux éditions Economica. Il a rencontré évidemment le silence que l'on peut imaginer, alors qu'il était préfacé par Pierre Chaunu, un grand universitaire que nous connaissons bien à Radio Courtoisie. Également, il c'était Arnaud Imatz.
Vous voulez parler de l'ami de M. Vidal-Naquet?
Oui, je crois que c'est, il s'agit de lui. Également, Arnaud Imatz a publié, avait publié un petit peu avant, il a été réédité depuis, une remarquable biographie de José Antonio Primo de Rivera, un ouvrage tout à fait novateur sur la question, dans l'édition française. Et bien là aussi l'écho a été extrêmement limité. De ce côté-ci des Pyrénées, on reste encore dans une large mesure prisonnier d'une vision tout à fait partiale, tout à fait schématique, hémiplégique, comme vous le disiez, de la guerre d'Espagne. Alors, ce qui, vous évoquiez tout à l'heure l'exposition de photos des Invalides, il faut quand même rappeler, vous sembliez vous indigner ou être surpris par cette exposition. Il faut quand même rappeler qu'il y a quelques années, notre actuel président de la République a accordé aux anciens combattants des brigades internationales la carte d'anciens combattants. Il fallait tout de même le signaler.
Donc, le titre exact de l'exposition est encore plus fort. No pasarán, c'est-à-dire le slogan républicain, le slogan de Los Rojos, hein. No pasarán, image des brigades internationales de la guerre d'Espagne, musée d'histoire contemporaine, hôtel national des Invalides.
Alors il faut rappeler pour nos auditeurs que ce slogan fut lancé par la fameuse passionaria Dolores Ibarruri, députée au Cortés, donc au début de la guerre civile, qui a effectivement eu un grand succès de propagande, parce que la guerre d'Espagne fut aussi un énorme effort de propagande dans les deux camps, et ce terme, cette expression No pasarán a contribué à mobiliser un peu partout effectivement des sympathisants de la cause républicaine, des militants communistes dans une très large mesure, qui sont venus s'engager pour combattre en Espagne dans les brigades et qui ont pris une part d'ailleurs importante à cette guerre, et en certains moments particuliers une importance même décisive.
Inutilement, cette mobilisation autour de No pasarán, puisqu'ils sont passés.
Eh oui, Anne Passado.
Anne Passado. Ta 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 ta. Bien. Des États-Unis, je n'ai pas pu me déplacer avec mes disques, car j'aurais bien entendu souhaité pouvoir faire écouter à nos auditeurs ce soir Cara al Sol, le chant des Regulares, et Loria Mendi, le chant des Carlistes. Peut-être leur chanterons-nous tout à l'heure, si nous sommes en forme à la fin de l'émission. Et Philippe Conrad, merci pour cette présentation de l'historiographie. J'aimerais maintenant que nous travaillions toujours selon notre méthode historique et que nous essayons d'appliquer, nous qui sommes tous les trois des historiens, et revenons en arrière. Revenons en arrière pour éclairer ce qui se passe en avant. Les origines du conflit. Vous les situez quand, vous, ces origines du conflit?
Alors, les origines du conflit, je crois qu'il faut aller les chercher très loin dans l'histoire de l'Espagne. Il faut aller les chercher au début du 19e siècle, avec le choc que représente l'invasion napoléonienne, avec la formation, la genèse à partir de ce moment des deux Espagnes qui vont s'affronter en fait pendant un siècle et demi. D'un côté, l'Espagne de la tradition, l'Espagne de l'héritage catholique, l'Espagne nostalgique de sa puissance impériale, pénétrée de ce qu'avait été l'idéal chevaleresque de la reconquête, l'Espagne de toute la Hidalguería du Moyen-Âge et du XVIe siècle. Cette Espagne-là, d'autres voulaient en finir avec elle. On connaît la phrase du politicien libéral qui avait demandé que l'on fermât à double tour le tombeau du Cid, pour bien montrer qu'il convenait de rompre avec cet héritage, avec ce monde-là, et qu'il fallait s'orienter vers cette Europe née du monde des Lumières, née des espérances progressistes du 19e siècle.
On en revient toujours au même point.
Du 19e siècle. Et tout le 19e siècle espagnol va être d'ailleurs un siècle abominable. C'est peut-être le pire siècle de l'histoire de l'Espagne. Il commence avec l'occupation napoléonienne, et le pays, ensuite, quand il va retrouver son indépendance, va perdre peu de temps après ses colonies d'Amérique du Sud, son empire américain. Hein, il y aura un petit sursis pour Cuba, et puis au-delà pour les Philippines, qui seront perdues en 1898 lors de la guerre contre contre les États-Unis. De plus, ce pays, faute de certaines ressources, ne va pas prendre le virage de la révolution industrielle comme les autres grandes puissances d'Europe à l'époque, va se retrouver participer à une sorte de périphérie sous-développée de l'Europe dans la zone méditerranéenne qui comprend l'Italie du Sud, la majeure partie des pays ibériques. Et surtout, c'est un pays qui ne va pas trouver du tout son équilibre politique au cours de ce 19e siècle, puisque libéraux et traditionnalistes vont s'affronter. Ce sont les guerres carlistes à propos de la succession de Ferdinand VII. Première guerre carliste dans les années 1830, une autre dans les années 1870, des guerres civiles donc prolongées qui contribuent à diviser cette Espagne, à épuiser ce pays. Et puis des formules politiques qui sont tentées et qui ne débouchent sur rien. On fait appel à un prince italien pendant quelques temps en 1870, la fameuse candidature au trône d'Espagne. Ça nous a valu la guerre 70 pour nous avec la candidature avortée des Hohenzollern. Et puis ensuite, après l'échec d'Amédée de Savoie, on aura une première république éphémère qui sera un échec complet, qui plongera des régions entières du pays dans le chaos. La restauration avec Alphonse XII, mais qui disparaît trop précocement. Une régence très longue pour le jeune Alphonse XIII, dans un pays qui commence à être profondément affecté par toutes les forces révolutionnaires que connaît alors l'Europe. L'anarchisme, le socialisme vont connaître une extension importante en Espagne avec une... ces courants-là vont y prendre une forme extrêmement radicale qui va mettre le pays dans une situation révolutionnaire plus ou moins chronique dès avant la guerre de 1914. Et le fait que l'Espagne ne participe pas à la Première Guerre mondiale, qu'elle en tire même un certain nombre d'avantages en termes économiques, ne contribue pas pour autant à stabiliser le pays. Certains pays européens se trouvent totalement déséquilibrés, déstabilisés. On a l'occasion de le dire à plusieurs reprises par la guerre de 14. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Italie, cette espèce de gigantesque tourmente, n'est-ce pas, née de la guerre, de la révolution russe. En Espagne, en fait, le mal est plus ancien. Le pays est profondément divisé par rapport à lui-même. Il cherche très difficilement sa voie dans un passage vers la modernité qui reste à l'évidence extrêmement difficile à réaliser. Quelques intellectuels, c'est la fameuse génération de 1898, vont tenter d'indiquer des voies, d'indiquer des formules, mais en tout cas, ils seront incapables de définir un projet global qui soit susceptible de rassembler les Espagnols et de permettre à ce pays de s'adapter véritablement aux nouveautés du XXe siècle. Alors, évidemment, dans ces conditions, quand en 1931, à la suite d'élections municipales malheureuses dans certaines grandes villes, le roi Alphonse XIII, qui ne brillait pas par un caractère particulièrement affirmé, préfère abdiquer, c'est la proclamation de la Seconde République, et en l'espace de quelques années, on peut considérer que l'Espagne va en continuer vers sa descente aux enfers. À partir de 1831, cette nouvelle République se révèle comme un régime d'un anticléricalisme fanatique. C'est un régime qui tient, qui veut mettre en œuvre une politique résolument révolutionnaire. Les élections de 1933 donnent la victoire à la droite, au centre-droit. On pourrait appeler un courant démocrate chrétien, mais c'est insupportable pour les adversaires de gauche. Et quand Gil Robles et les gens de la CEDA, la Communauté espagnole des droits autonomes, sont appelés au gouvernement en 1934, eh bien, contre la loi démocratique, contre le régime parlementaire qui a été mis en place, eh bien, c'est l'insurrection à Barcelone et dans les Asturies. Ce qui fait, quand on évoque ensuite la révolte de 1936, il faudrait peut-être rappeler aussi que dès 1934, le régime républicain a été défié, cette fois, par les forces de gauche et d'extrême gauche. Il faudrait d'abord rappeler que, en matière de pronunciamiento, puisque le terme est espagnol, en matière de putsch ou de coup d'État, au 19e siècle, la quinzaine de coups d'État qui ont eu lieu ont été presque tous exclusivement des coups d'État d'origine libérale. Et alors, c'est dans ces conditions que, évidemment, quand le Frente Popular, surnommé par le général de Castelnau en France, le Frente Crapular, va gagner les élections de février 36, ça ne va faire qu'aggraver, évidemment, toutes les tensions que je viens d'évoquer et qui se situaient en amont, et cela va préparer le drame, c'est-à-dire le déclenchement de la guerre civile à l'été de 1936.
Alors vous disiez, Philippe Conrad, que les intellectuels espagnols ne définissent pas de projet pour l'Espagne, ni même d'ailleurs les hommes de la génération de 90 1918, la fameuse génération de Damantay Ocho. Alors, la question que j'aimerais vous poser, la Falange et José Antonio ne vont-ils pas, eux, définir un projet pour l'Espagne? Et nous sommes au cœur du colloque du cercle franco-hispanique, d'ailleurs. Et comment c'est-vous, Dominique? Il y a un projet pour l'Espagne, Dominique Vénère. José Antonio et sa Falange.
Oui, la personnalité de José Antonio dans ce qu'a été la Falange est évidemment essentielle. Il n'est pas le seul à jouer un rôle moteur, actif, créateur en matière d'idées. On peut dire que la Falange espagnole est créée à la charnière ou à la réunion de deux courants. Un qui est représenté par José Antonio, nous allons en parler, et l'autre courant qui est de gauche nationale ou nationaliste, qui se dit national syndicaliste et qui est représenté par Ledesma Ramos. Ce sont les deux courants constitutifs. La Falange apparaît dans ce contexte bien particulier de l'Espagne qu'a rappelé Philippe Conrad, c'est-à-dire une Espagne qui est en situation de guerre civile larvée dans les années 30. Qui était José Antonio Primo de Rivera? Il est né le 24 avril 1903 au sein d'une vaste famille et il était le fils aîné du général Primo de Rivera, qui avait été dictateur de l'Espagne à partir de 1923. Un dictateur, il faut bien le dire, assez débonnaire. C'était la dictature du général Primo de Rivera n'a rien eu de ni de très brutal, ni surtout de sanglante. Le général Primo de Rivera avait un souci certain de modernisation de l'Espagne, mais le cadre dans lequel il intervenait, ses propres forces peut-être, ou ses propres aptitudes peut-être, l'ensemble de la situation ne lui a pas permis de réaliser l'œuvre de réforme et de modernisation qu'il souhaitait réaliser. Son fils aîné, José Antonio, Primo de Rivera, qui naît au sein d'une bonne famille et très ancienne famille, il est grand d'Espagne. Il appartient à la bonne société de Madrid. C'est un jeune homme qui est attiré par la littérature, qui est élégant, qui courtise et qui est courtisé, et qui a priori ne semblait pas du tout destiné à un rôle politique important. Il devient avocat, et à la suite des attaques dont son père était l'objet, son père est mort en exil à Paris en 1930. À la suite des attaques dont son père, ou dans la mémoire de son père, était l'objet, il a voulu prendre la défense de son père et la défense de la mémoire de son père. C'est sans doute cela le point de départ réel de son action politique. Mais après avoir tenté une première fois de se faire élire aux élections de 1931, il va prendre goût à la politique et la politique va l'empoigner, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus y échapper et il sera contraint d'endosser le rôle qui peu à peu va devenir le sien. Et ce jeune homme qui ne semblait pas fait pour la lutte va se prendre peu à peu au jeu et certes, sans aucun doute, il est influencé par les exemples de ce qui se passe à la même époque en Europe, dans les années 30. L'exemple de l'Italie fasciste, qui, il faut le rappeler, à l'époque, bénéficie d'un préjugé généralement favorable. Ce qu'a entrepris Mussolini depuis son arrivée au pouvoir à la fin de 1922 en Italie, et regardée d'une façon générale avec faveur, sinon évidemment par des adversaires déterminés. Et aux yeux de José Antonio, qui souffre de l'état arriéré de l'Espagne, des conflits entre Espagnols, l'exemple de l'Italie et de Mussolini est évidemment attirant, puisque apparemment c'est un succès. Mussolini semble avoir mis fin aux querelles intestines de l'Italie, semble avoir favorisé une réconciliation des Italiens, et avec une grande rapidité, il a entrepris de moderniser l'Italie. C'est donc un exemple, et cet exemple, bien entendu, fascine quelque peu José Antonio. Il est également fasciné par la dynamique du fascisme italien, car incontestablement, chose qui est un peu oubliée aujourd'hui, il y a un dynamisme énorme, il y a une esthétique fasciste qui elle-même contribue à ce dynamisme et qui suscite partout en Europe des émules venant d'horizons tout à fait variés, tout à fait multiples. Bref, il est, comme d'autres en Europe à la même époque, placé dans le champ magnétique du fascisme et de l'esthétique fasciste. Et il a le désir de faire profiter l'Espagne de ce qui a pu être réussi ailleurs, de ce qui a été réussi en Italie. Et il n'est pas le seul à avoir ce sentiment. Avant même la création de la Falange, en octobre 1933, il existe en Espagne plusieurs petits groupes, des journaux, etc., qui vont dans le même sens. Il y a donc une effervescence qui est, on peut dire, pré-fasciste, qui ne représente pas du tout quelque chose d'analogue à ce qui s'est passé en Italie ou en Allemagne, parce que les conditions historiques, Philippe Conrad l'a rappelé, sont absolument différentes. L'Espagne n'a pas participé à la Première Guerre mondiale, donc elle n'a pas subi ce choc gigantesque qui a été celui de l'Italie, de l'Allemagne, et qui a créé un nouveau type humain, etc. Cela, l'Espagne ne l'a pas connu. Donc il n'y a pas en Espagne l'ensemble des conditions politiques, humaines, sociologiques, etc., que l'on trouve dans d'autres pays, et notamment en Italie. En revanche, il y a des petits groupes qui, eux, oui, sont portés par une espérance qui se dit clairement ou indirectement fasciste. Et celui qui en sera le fédérateur, en quelque sorte, c'est José Antonio Primo de Rivera. Il en sera le fédérateur parce que il porte un nom qui pèse en Espagne, parce que il révèle un tempérament de meneur politique, non pas du tout à la façon des chefs fascistes. Il est en fait très différent. Ce n'est pas un tribun populaire, même s'il acquiert au fil du temps un talent oratoire. C'est un personnage tout à fait curieux, en fait, et qui est, peut-on dire, une sorte de déséquilibre par rapport à la vocation qu'il adopte. Ce n'est pas un véritable tempérament politique. C'est un idéaliste, c'est un poète.
Un homme d'action.
Cela se manifestera constamment dans ses propos, dans ses discours, dans ses textes écrits, qui ne sont pas du tout ceux d'un tribun populaire. C'est un homme qui est porté par une idée haute, élevée, chevaleresque de l'Espagne et du rôle qui devrait être celui des hommes politiques. C'est en cela que l'on peut dire qu'il n'est pas exactement à sa place, et si l'on fait un raccourci en catapultant un petit peu la chronologie, dans cette période au sein du camp national à partir du soulèvement national de juillet 1936, il y aura deux noms qui vont jouer, qui vont peser en Espagne. Le nom de José Antonio Primo de Rivera, mais ce ne sera plus qu'un nom et un symbole, puisqu'il a été arrêté il a été arrêté avant même le déclenchement du soulèvement national. Il a été arrêté dans cette situation pré-révolutionnaire qui était celle de l'Espagne, et condamné à mort dans le cadre d'un procès politique tout fait et acquis d'avance, exécuté le 20 novembre 1936. Ce qui fait qu'il ne joue aucun rôle personnel direct dans le soulèvement national, et il ne va jouer aucun rôle personnel, évidemment, dans la suite. En revanche, son nom sera constamment présent. Il va devenir un mythe pour l'Espagne nationale. L'homme qui, inversement, lui, va jouer un rôle politique, militaire aussi, capital, c'est le général Franco, qui, lui, va révéler un véritable tempérament politique. José Antonio est un idéaliste, ce que n'est pas du tout le général Franco. José Antonio n'est sans doute pas, à proprement parler, un pragmatique politique, alors que le général Franco prouvera qu'il avait des aptitudes tout à fait extraordinaires de grand politique, pragmatique, froid. L'inverse, évidemment, d'un idéaliste. Mais pour mener les affaires politiques, c'est évidemment le tempérament de Franco qui domine, alors que celui de José Antonio, c'est le tempérament d'un créateur de mythes peut-être, d'un créateur d'idéal, mais certainement pas d'un réalisateur politique.
Dominique Vénère, à propos de José Antonio, dont je rappelle que le Cercle franco-hispanique tient un colloque, nous rappellerons les dates et les lieux tout à l'heure, consacrés précisément à José Antonio, donc tous ces points de la personnalité de José Antonio seront approfondis par les divers orateurs et spécialistes de la question. Alors Philippe Conrad, je me retourne vers vous à nouveau, et j'aimerais, avant que nous abordions la question des brigades internationales et des volontaires étrangers dans la guerre d'Espagne en général, j'aimerais rapidement que vous nous situiez les grandes étapes de la guerre civile, de façon à ce que nous puissions bien comprendre dans quel contexte vont intervenir les volontaires étrangers.
Alors une petite parenthèse d'abord avant de répondre à votre question. Dominique a évoqué le cas de Ledesma Ramos. Je signale la publication récente d'un remarquable petit ouvrage de notre ami Jean-Claude Valla sur cette question, publié dans la collection des cahiers libres d'histoire. Oui. Alors pour
en venir aux éditions, nous aurons la référence tout à l'heure.
Oui,
nous donnerons les éditions nationales.
Pour en venir à la guerre elle-même, après quelques mois de situation pré-révolutionnaire pendant laquelle José Antonio est donc arrêté, notamment donc en mars 36, on va s'orienter vers l'affrontement avec des généraux de l'armée qui commencent à comploter, le général Mola, le général Sanjurjo, qui lui était un vieux factieux bien connu, et le général Franco, qui était resté jusque-là d'une très grande loyauté vis-à-vis du régime. Mais un certain nombre d'événements vont précipiter les choses, les manifestations anticléricales de plus en plus violentes, l'assassinat du député royaliste Calvo Sotelo le 13 juillet. Finalement, dans la nuit du 17 au 18 juillet, les garnisons du Maroc espagnol se soulèvent. Le général Franco, qui avait été écarté aux Canaries, arrive à Tétouan, va prendre la tête de l'insurrection qu'il va conserver parce que Sanjurjo va être tué le 20 dans un accident d'avion. Et le général Mola, lui, disparaîtra lui aussi dans l'accident d'avion, mais en 1937. Donc c'est Franco qui n'était pas l'initiateur, en fait, du mouvement militaire, qui en deviendra ensuite, de fait, le chef. Hein. Alors, cette guerre civile, elle commence donc comme un pronunciamiento, et c'est ceux qui dirigent ce coup de force, ce coup d'État, a priori, pensent que les choses se passeront assez facilement, et que, après l'armée d'Afrique, le soulèvement national va gagner aisément la maîtrise métropole. Un certain nombre de militaires sont évidemment dans la confidence, dans le complot un peu partout. Eh bien, ça ne se passe pas du tout comme cela. Et il apparaît au bout de quelques jours et de quelques semaines que nous entrons dans une guerre qui risque d'être longue, qui risque d'être difficile. En effet, certaines régions, certes, ont basculé dans l'insurrection. Hein, c'est le cas du Nord, c'est la Navarre, c'est Burgos. Les requêtes carlistes ont poussé jusqu'au col qui domine Madrid. Au sud, le coup de culot de Capo Deliano à la radio de Séville fait basculer l'Andalousie.
C'est rouge.
Les forces du Nord rejoignent les forces du Sud à Badajoz. Et si l'on accepte quelques poches dans les Asturies, à Santander, également à Malaga ou Almeria au sud, eh bien, on peut considérer que tout le Nord-Ouest, l'Ouest et une bonne partie du Sud sont aux mains des nationalistes, alors que les Républicains conservent un gros triangle dont la pointe serait Madrid, dont une extrémité serait en gros la frontière française du côté des Pyrénées-Orientales, de la Catalogne, et puis cette zone républicaine descendant jusqu'à Carthagène, en gros, vers le Sud-Est. Alors, dans cette guerre, très vite, on va constater, faute de moyens pour les uns et les autres, l'intervention des puissances étrangères. Le gouvernement du Front Populaire espagnol va demander l'aide de son homologue français qui va être accordé. On connaît l'épisode des avions livrés par Pierre Caux, les trains de munitions qui ont été fournis par le gouvernement de Léon Blum. Dans l'autre camp, Franco va solliciter l'aide italienne et allemande, notamment pour pouvoir réaliser un pont aérien permettant d'amener en métropole les troupes d'Afrique, car il faut rappeler que l'aviation et la marine sont restées loyalistes et fidèles au gouvernement républicain. Alors cette intervention en métropole et troupes d'Afrique va se révéler évidemment décisive. Et puis du côté républicain, eh bien le Comintern, l'international communiste, qui comprend tout de suite quel enjeu représente cette guerre civile espagnole, le Comintern va organiser l'appel à la mobilisation de volontaires étrangers désireux de venir combattre pour la cause républicaine. Et l'on verra intervenir. Si vous voulez, les premières, ça va être au mois d'octobre que ça va vraiment s'organiser, octobre 36, et on verra s'engager.
Dès le début, donc.
On verra s'engager les brigades internationales de manière significative, surtout pendant la bataille de Madrid, au moment où Madrid était très directement menacée en novembre 36 par les forces nationales, l'engagement des internationaux, notamment aussi d'unités blindées fournies par les soviétiques, vont permettre de limiter l'avance nationale. Ça va être ensuite la bataille de la Cité universitaire à laquelle prendront part les brigades internationales également. Alors, la situation est stabilisée ainsi dans ces conditions en gros en fin 1936. En 37, les nationalistes vont réussir à en finir avec les poches de résistance du Sud et du Nord, Almeria, Malaga, la Biscaye, et puis ensuite le Santander, les Asturies. Il restera ces deux morceaux importants sur la carte que représentent d'un côté le camp national, et puis de l'autre, avec Madrid, avec Barcelone, avec Valence, le camp républicain. En 1937, les républicains vont chercher à dégager Madrid. Ça sera la bataille de Brunete, qui sera finalement un échec pour eux. Même chose sur le front de l'Ebre. Ils échoueront lors de la bataille de Belchite. Et finalement, la bataille de Teruel, pendant l'hiver terrible 1937-38, tournera finalement à l'avantage des nationaux. Et alors, à partir de ce moment, les nationaux sont en mesure de pousser vers la Méditerranée, de couper en deux le camp républicain. En avril 38, ils arrivent à Vinaros, entre Valence et Castellón de la Plana, sur la côte méditerranéenne, coupant ainsi le camp républicain, ce qui est évidemment un succès tout à fait décisif. Les républicains vont tenter un ultime effort, et ça sera en 1938 la bataille de l'Ebre, hein, les grandes batailles de l'Ebre, où on verra également s'engager la brigade Lister et un certain nombre d'unités célèbres du camp international. Et puis finalement, le temps travaille pour les nationaux, et en janvier 1939, le général Yagüe pourra entrer en vainqueur dans Barcelone. Les républicains vont se replier vers la frontière française, plus de 200 000 d'entre eux vont venir se réfugier en France, et puis à ce moment-là, eh bien, les jours de Madrid évidemment sont comptés, et à la fin du mois de mars, eh bien, les nationaux sont en mesure de prendre Madrid, où aura lieu quelques semaines plus tard un gigantesque défilé de la victoire qui sanctionne donc le succès final de l'Espagne nationale. Voilà en gros le film très très général de ce conflit.
Alors, dans ce cadre, interviennent les brigades internationales, rôle du Comintern. Alors, comment sont constituées ces brigades, ces premières brigades, qui les appelle, quels sont leurs contingents, quels sont leurs premiers combats, et quelle est leur idéologie? Ont-elles une idéologie commune?
Alors, les brigades internationales sont créées relativement tôt. La décision est prise par Staline à Moscou dès le 18 septembre 1936. Ça, c'est la décision de créer un soutien international à l'Espagne, et les brigades en tant que telles, avec la structure qui va être la leur, seront officiellement créées toujours par le Comintern, toujours à Moscou, le 22 octobre 1936. Alors, pourquoi cette création? Bon, c'est assez clair. L'Espagne, dans cette période, représente d'emblée un enjeu immense, de part et d'autre. On imagine les communistes, le Comintern, Staline imagine que cette guerre civile pourrait permettre peut-être la création d'un régime bolchevique en Espagne. Inversement, pour ceux qui n'ont pas de sympathie pour le communisme, et il faut se souvenir qu'à l'époque, le communisme avait laissé des souvenirs atroces qui étaient ceux de la guerre civile russe et de ce que l'on commençait à savoir sur les atrocités en Union soviétique. C'est la raison pour laquelle une part importante de l'opinion européenne, y compris en France, voyait avec inquiétude ce qui se développait en Espagne, éprouvait la crainte de voir effectivement triompher un régime communiste bolchevique de type particulièrement dur et atroce en Espagne. Tout de part et d'autre, un désir d'appuyer et de soutenir. Le soutien de la part du Comintern et de Staline présentait par ailleurs d'autres avantages dans le cadre d'une stratégie générale. La stratégie du Comintern et de Staline en 1936 a été clairement établie un an plus tôt, lorsque, voyant la menace que représente la Nouvelle-Allemagne, celle du Troisième Reich, pour la Russie, Staline modifie complètement, retourne complètement la stratégie qui avait été jusque-là la sienne et définit la stratégie qui sera celle des fronts populaires. C'est-à-dire qu'il s'efforce de susciter partout, notamment en Europe, des alliances dans le cadre d'un front antifasciste. Des alliances qui doivent aller très loin, y compris jusqu'à la droite, pourquoi pas. Mais il va évidemment éprouver des résistances. Et toute la stratégie du Comintern sera destinée à susciter un mouvement de sympathie, un mouvement populaire en faveur de ce front populaire qui existe en Espagne, et de faire de l'Espagne non seulement un banc d'essai en toute chose, un banc d'essai politique voire militaire, mais de faire de l'Espagne le point de coagulation de toutes les passions antifascistes, et d'en faire le point de coagulation d'une alliance autour du Parti communiste. C'est évidemment le Parti communiste qui doit être l'élément moteur de tous les fronts populaires et de toutes les actions antifascistes. Et c'est la raison pour laquelle le fait de créer des brigades internationales faisant appel à des volontaires de différentes nationalités brigades nationales qui vont être entièrement contrôlées par l'appareil secret du Comintern entrent tout à fait dans cette logique. C'est donc à partir d'octobre 1936 que ces brigades sont créées. Elles bénéficient d'emblée du soutien de l'appareil du Comintern, qui est présent partout en Europe, qui est présent y compris également aux États-Unis et également en Amérique latine. Et l'ensemble de l'appareil du Comintern, ainsi que les partis communistes officiels, vont se mobiliser pour la création de ces brigades internationales. Alors, il y aura 5 brigades internationales qui seront créées, qui sont réparties par, non pas nationalité, mais langue. C'est-à-dire, brigade parlant français, qui porte le nom de la Marseillaise, brigade parlant l'allemand, c'est la brigade Thalmann, brigade parlant italien, c'est la brigade Garibaldi, brigade parlant anglais, c'est la brigade Abraham Lincoln. Voilà. Mais au sein de ces brigades serviront peu à peu un certain nombre d'Espagnols. Et le nombre d'Espagnols engagés dans les brigades internationales finira par être aussi important que le nombre des ressortissants de différentes nationalités. La participation la plus importante parmi les nationalités est la participation française, en raison de la puissance qui est déjà celle du Parti communiste français à l'époque, de la proximité avec l'Espagne et d'une mobilisation systématique de l'existence en France d'un front populaire qui appuie de toute sa propagande, mais pas simplement par la propagande, parce qu'il y aura une aide secrète matérielle qui sera très importante, mais toute la propagande du Front populaire va dans le sens, évidemment, du soutien au Front populaire espagnol et dans le sens de la mobilisation de brigades internationales. Ça explique la participation française particulièrement importante. Alors, les brigades internationales participeront à un certain nombre de batailles. Nous parlerons tout à l'heure des batailles pour la guerre d'Espagne, qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'étaient ou ce qu'ont pu être les batailles de la Première Guerre mondiale, ou ce que seront les batailles de la Seconde Guerre mondiale, tout à fait différent. Mais elles participent courageusement et de façon efficace à un certain nombre de batailles, et elles seront retirées du front de façon relativement précoce en septembre 1938 et dissoutes peu après.
Francophonie, le libre journal de Serge de Beketch, dirigé ce soir par Bernard Lugan. En compagnie de Victoria, de Dominique Vénère et de Philippe Conrad, nous parlions de la guerre d'Espagne, des brigades internationales, et nous allons parler dans quelques instants des autres volontaires internationaux, mais dans le camp national. Victoria, de nombreuses questions d'auditeurs, pourriez-vous les
lire? Oui, des commentaires aussi. Oui. Alors, un auditeur nous dit « Je suis très ému en vous écoutant, car j'étais bien jeune, mais je me rappelle avoir vu mon père partir comme volontaire pour se battre dans l'armée du général Franco. »
Avez-vous, cher auditeur, des archives et des photos? Si vous les avez, vous nous contactez d'urgence, s'il vous plaît.
Oh, Un autre auditeur, au départ, la révolution espagnole aurait dû être dirigée par un autre général, San Julio.
San Jorge.
Oui. Qui est décédé quelques jours avant l'insurrection. Pouvez-vous nous en parler?
Il est mort accidentellement le 20 juillet en décollant du Portugal pour rallier l'Espagne, mais son avion s'est écrasé.
Êtes-vous au courant de l'existence d'unités de Russes blancs combattant aux côtés des franquistes?
Ça, c'est la suite de l'émission, ce Victor. Nous allons en parler maintenant.
Le roi Alphonse XIII n'a pas suivi le bon conseil de son cousin, le roi d'Angleterre, qui lui a préconisé d'adhérer à la franc-maçonnerie pour avoir la paix dans son royaume d'Espagne. Il n'a pas suivi ce conseil car lui était un souverain catholique.
Question suivante.
L'armée républicaine espagnole était une armée raciste. Lorsque les Marocains de l'armée nationaliste tombaient entre leurs mains, ils étaient en général exécutés à la suite de tortures et de jeux de cirque bien connus. Il y avait dans les journaux républicains des caricatures racistes anti-marocains, dont se garde bien de parler la gauche et dont la droite la plus bête du monde ne parle pas non plus. Le pape a heureusement canonisé un prêtre espagnol tué par les Brigades Rouges. Un auditeur, lors du conflit... Ah, ça c'est amusant, il retourne en arrière. Lors du conflit des carlistes et des christiniens, Louis-Philippe avait prêté à la reine Christine le premier régiment étranger d'infanterie. Et le colonel de ce régiment, un certain Martinez, est devenu l'amant de la reine d'Espagne. Le régiment a eu des pertes considérables et est revenu sans avoir été soldé. Un autre auditeur, en quels termes, c'est pour M. Benner, en quels termes caractériseriez-vous l'esthétique italienne sous Mussolini, notamment dans le domaine architectural et sculptural?
Bien, je renvoie tout simplement au numéro en cours de la Nouvelle Revue d'Histoire, qui est en vente dans tous les kiosques en ce moment. Le dossier est consacré à la naissance du fascisme italien et ces aspects-là sont évoqués.
Et plus qu'évoqués, bien traités, avec des photos superbes.
Tout le monde attribue la création des camps de concentration aux Britanniques durant la guerre du Transvaal. N'est-ce pas plutôt une invention de Sherman pendant la guerre de Sécession?
C'est une direction de recherche intéressante, ça, que nous pourrions peut-être donner à Dominique Vénère. Sherman, pendant la guerre de Sécession.
Nous aurons certainement l'occasion un jour de consacrer une émission à la guerre de Sécession.
Alors, à propos des manifestations récentes, on pouvait voir des banderoles chez les enseignants qui indiquaient « No Rafaran », R-A-2-F-A-R-A-N.
Ouais. La première fois qu'ils ont utilisé ce slogan, ça leur a pas profité.
Il ferait mieux de s'occuper, de préparer leurs cours, d'être un peu moins agoraphobes face à leurs étudiants, d'être un peu moins incompétents dans leur métier, et peut-être seraient-ils un peu plus respectés par les gouvernants et par leurs élèves. Comment voulez-vous que les élèves puissent respecter ces déguisés qui sont en train de discréditer complètement la fonction enseignante? Bravo aux enfants de banlieue qui crachent à la figure de tous ces grévistes. Bravo. Vous savez les traiter.
Bravo aux enfants de 8 ans qui claquent les maîtresses, qui se font tutoyer.
Dans une armée, quand il y a une mutinerie, on fusille les officiers. Quand une classe n'est pas tenue... Dans mes amphis, vous n'avez pas de chahut, je suis désolé. Ça marche droit. Et les gens sont polis, disent bonjour en arrivant.
Et ça pense clair.
Et ça pense clair, ça marche droit. Si on n'est pas capable de se faire respecter par ses élèves, on ne manifeste pas dans la rue pour demander la retraite à 25 ans ou 28 ans ou je ne sais pas. C'est lamentable. Cette corporation me révulse. Heureusement que je fais partie du supérieur, mais heureusement que tout le monde n'est pas dans le secondaire. Ce matin, en traversant Paris à pied, j'ai vu un admirable professeur de classe de 3e qui était avec ses élèves, qui leur faisait visiter les jardins des plantes. Je l'ai félicité, je lui ai dit « Mon cher collègue, nous appartenons au même corps, car nous sommes un corps debout, et non pas ce corps de déguisé qui tape sur les marmites et tam-tam avec des oreilles de Mickey sur la tête. Qu'ils se fassent chahuter, mais bien fait pour eux !» Ah, tout de même, ce sera dit.
Oh, que ça fait plaisir à entendre.
Vous qui êtes une...
Ah, moi je suis tout à fait d'accord avec vous.
Vous qui êtes une ancienne institutrice.
Oui.
Nos vieux instituteurs, mais doivent se retourner en leur tombe quand ils voient ces guignols. Enfin, bon.
Et quand vous voyez leurs élèves.
Et quand vous voyez à quel syndicat ils adhèrent. Écoutez, on est toujours le même problème.
Bien. Autre auditeur. Alors, question.
C'était la minute intellectuelle. Les gaz du décalage horaire ont besoin de s'exprimer.
Moi, je n'avais pas de décalage horaire. Pouvez-vous donner des précisions sur les livres, enfin des livres, dont un sur la guerre d'Espagne et l'autre, biographie de Primo de Rivera? Pouvez-vous donner...
Ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Le premier, il s'agit d'un livre intitulé « La guerre d'Espagne revisitée », publié aux éditions Economica, sous la direction d'Arnaud Imatz. Et le second, qui est aussi un livre d'Arnaud Imatz, un livre remarquable, c'est la biographie qu'il a consacrée à José Antonio Primo de Rivera et qui vient d'être réédité, je crois, aux éditions Godefroy de Bouillon.
Bien. Mes chers amis, il faut avancer. Il nous reste 20 minutes si nous voulons parler des volontaires nationaux. C'est même fondamental. Philippe Conrad, oui. Dominique Vénère, je vous pose la question. On nous parle toujours des brigades internationales et l'on omet toujours de parler des volontaires nationaux. Y a-t-il eu véritablement une réalité de ce phénomène?
Oui, il y a eu une réalité de ce phénomène, mais cela reste un phénomène mal connu pour plusieurs raisons que je vais essayer de résumer. D'abord, l'enquête est assez difficile pour suivre la trace de ces volontaires. Beaucoup se sont engagés sous des noms d'emprunt, se sont engagés dans la Falange, dans les Requêtes carlistes, à la Légion étrangère, n'ont pas été regroupés en unités constituées comme celle qu'évoquait Dominique à propos des brigades internationales. Les nationaux espagnols ont été relativement réticents à ces engagements pendant assez longtemps, hein, pour des raisons de principe, hein, à l'inverse du camp républicain qui voulait valoriser pour sa cause cet engagement international. Les nationalistes sont restés assez longtemps réticents vis-à-vis de cette présence étrangère. D'autre part, il faut aussi rappeler que, étant donné ce qu'a été l'histoire ultérieure, ces volontaires ont fait partie du camp des vainqueurs en 1939, mais pour beaucoup d'entre eux, ils étaient dans le camp des vaincus en 1944-45. Et à partir de cette date, la vulgate communiste, la langue de bois que nous connaissons bien, s'est imposée à propos de la guerre d'Espagne, ce qui fait qu'ils n'ont pas été en situation d'évoquer ou de faire connaître cet épisode particulier de leur engagement, cet aspect particulier de leur engagement. Et puis beaucoup ont disparu aussi dans cette lutte, ou alors au cours des années suivantes. Mais il y a eu une réalité incontestable de cet engagement étranger qui prend des formes tout à fait diverses. Hein. On laissera de côté tout de suite l'engagement des Allemands de la Légion Condor et du corps expéditionnaire italien. Il s'agit là de forces d'unités constituées envoyées par des États donc qui ont apporté leur soutien au général Franco. En gros, approximativement 10 000 Allemands à la Légion Condor, environ 50 000 Italiens dans le corps expéditionnaire. Laissons-les de côté, puisque ce qui nous intéresse, ce sont des volontaires qui sont venus s'engager individuellement pour la cause nationale. Alors donc, plusieurs possibilités pour eux. Souvent, au début, surtout, ils rejoignent les Requêtes carlistes. Ils rejoignent aussi le Tercio, la Légion étrangère espagnole. D'autres rejoignent les unités militaires, les centuries de la Falange. On a même quelques cas d'étrangers dans des régiments de l'armée régulière espagnole, ou même on a le cas d'un Italien qui servait chez les Regulares comme officier chez les Regulares, donc c'est les troupes marocaines auxiliaires de l'armée espagnole. Donc des situations, des statuts assez différents.
Les Regulares n'étaient pas des troupes auxiliaires. C'était l'équivalent de nos tirailleurs.
Oui, c'est ça.
Les auxiliaires sont les goumiers, ce sont des véritables unités enrégimentées.
D'où leur nom de Regulares, d'ailleurs, de Regulares.
Regulares, bien sûr. Et il y avait plusieurs, Regulares de Ceuta, Regulares d'Ifni, Regulares de... Ouais.
Alors, ces divers statuts facilitent évidemment par les recherches. Il y a un livre qui a été quand même réalisé sur ce propos par un Espagnol qui s'appelle Luis de Mesa, qui a été publié il y a maintenant 3-4 ans, qui s'appelle Los Otros Internacionales, aux éditions Barbaroja, à Madrid. Mais c'est un livre qui est un petit peu un travail de compilation, qui rapporte beaucoup de parcours individuels, donc c'est bourré d'informations très intéressantes. Il n'y a pas de véritable synthèse avec certains chiffres que l'on pourrait attendre, notamment sur les effectifs des différents contingents nationaux. On a tout de même, pour étudier cette question, les archives militaires espagnoles, les témoignages témoignages, évidemment, de ceux qui ont participé à cette aventure, mais qui sont malheureusement souvent un petit peu trop rares. Et il y a également les témoignages, les articles de la presse de l'époque qui évoquent assez souvent un certain nombre de cas. Certains auteurs de l'époque, on connaît par exemple le cas de Brasillac avec dans son histoire de la guerre d'Espagne, quand il évoque le fameux boulanger français de l'Alcazar de Tolède, hein, par exemple, où il évoque également un autre cas d'un jeune français qui a traversé à la nage la Bidasoa pour gagner l'Espagne et s'engager au Tercio et avant d'être blessé à la Cité Universitaire à Madrid. Donc on a quand même un certain nombre d'informations qu'il est possible de recouper et de rassembler, même si une enquête vraiment scientifique, complète, approfondie reste encore à réaliser sur ce sujet extrêmement difficile à aborder.
Je profite de ce que vous dites pour lancer un appel à nos auditeurs. Si vous avez dans vos archives familiales des photos, des documents, s'il y a eu des membres de votre famille, je m'adresse surtout aux habitants de l'ouest de la France, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Si vous avez des souvenirs de famille, photos, documents, photos identifiées et autres, vous nous contactez, s'il vous plaît. C'est très important parce que il y a une étude à faire. Il ne faut pas laisser l'histoire de la guerre d'Espagne aux mains des brigades internationales et de leurs défenseurs. Il faut que nous puissions véritablement faire un contrepoids. Donc, si vous voulez dire tous ces éléments, nous sommes à la recherche de ces éléments, chers auditeurs.
Alors, nous n'avons pas de chiffres satisfaisants, de chiffres globaux concernant les effectifs. Et il y a un certain nombre d'incertitudes qui demeurent à propos de beaucoup de contingents. Hugues Thomas, par exemple, parle de 20 000 Portugais. Il y a une forte participation portugaise, c'est vrai, mais le chiffre paraît tout de même extrêmement exagéré. Et à l'inverse, Hugues Thomas minore à l'excès la part de ses compatriotes anglais ou des Nord-Américains qui ont été présents quand même dans le camp national. Approximativement, je pense que l'on peut avancer, si l'on veut présenter un chiffre global, un chiffre tournant sans doute autour d'une dizaine de milliers de volontaires qui ont combattu à des titres divers, avec des statuts divers, sous des identités diverses dans le camp national. Alors parmi ces volontaires, il y a les représentants de certaines nationalités qui sont davantage présents et qu'il peut être utile d'évoquer rapidement pour nos auditeurs. Il y a d'abord une expérience qui a plutôt mal tourné, c'est l'expérience des Irlandais. Un leader fascisant irlandais, O'Duffy, a prétendu lever un corps expéditionnaire qui viendrait se porter à l'aide des nationaux. Il y a plusieurs bateaux qui sont partis de Galway vers le Ferrol ou Lisbonne pour amener en Espagne ces volontaires irlandais. Et ils ont été engagés lors de la bataille de la Rarama face à la brigade américaine Lincoln. Le résultat n'a pas été brillant. Ils ont subi d'assez lourdes pertes. Beaucoup sont tombés malades pendant l'hiver, là, en février-mars. Et l'expérience a duré quelques semaines seulement. Le général Diagoué lui-même a demandé la dissolution des dites unités. Et dès le printemps suivant, la plupart des volontaires venus de la Vertérine se sont réembarqués en direction de leur île. Mais certains, les éléments les plus déterminés, sont de demeurer généralement dans les rangs des requêtes carlistes.
Exactement.
Qui ont...
Et je voudrais apporter une précision là-dessus, car un de mes chefs au Camelot du Roi me raconte qu'il avait fait la guerre d'Espagne dans les rangs carlistes, me racontait que dans ce que l'on a appelé la bandera Jeanne d'Arc, il n'y avait pas que des Français, et notamment l'artillerie était irlandaise. Et il m'a raconté les combats qu'ont menés les Français avec, donc, dans leur propre unité, des batteries qui étaient irlandaises.
Oui, et donc des Irlandais sont restés malgré globalement l'échec relatif de l'expérience irlandaise qui manquait manifestement d'encadrement satisfaisant. Il y a eu les Irlandais. Vous évoquiez tout à l'heure le cas des Russes. Effectivement, un bon nombre de Russes blancs sont venus servir dans le camp national. Le prince Alexandre Milagvari, nous avons le cas d'un ancien aviateur de l'armée blanche de Kolchak.
La Milagvari que l'on retrouvera à la Légion étrangère.
Non, c'est un frère.
Un frère.
Nous avons le cas d'un d'un ancien pilote de l'armée blanche de Kolchak qui va servir dans l'aviation nationale, qui sera l'un des pionniers en matière de vol de nuit sur Junker 52, qui sera abattu au-dessus des lignes en 1938, sautera en parachute, tombera malheureusement dans le camp républicain et se défendra en vidant toutes ses cartouches contre les miliciens qui évidemment finiront par le prendre et par le fusiller. Donc un épisode particulièrement héroïque qu'il faut mettre au crédit de ces Russes blancs. Il y en a un certain nombre d'autres qui se sont retrouvés soit au Tertio, soit chez les carlistes également. Il faut dire quelques mots aussi des Belges, avec une figure particulièrement remarquable là, qui est le jeune aristocrate belge Rodolphe Geoffrey Henricourt de Grun, qui était officier de cavalerie, qui avait passé un brevet de pilote civil en 1934, qui dès l'automne 36 rejoint l'Espagne et est blessé dans le camp national. Et là, il va rencontrer pendant sa convalescence le général Kindelan, qui commandait les forces aériennes nationales, et il va rejoindre l'aviation. Et il va être l'un des grands pilotes de chasse du camp national. Alors, il est intéressant de signaler que ce personnage, eh bien, nous le retrouverons quelques temps après, durant l'été 40, au sein de la Royal Air Force, et il sera abattu au-dessus de la Manche en combattant les pilotes de la Luftwaffe. Et il en ira de même pour un Australien également, est une figure aussi de guerre d'Espagne engagée dans les forces aériennes nationales, qui combattra aussi dans les rangs de la RAF et qui sera abattu aussi pendant la bataille d'Angleterre en 1940. Il y a quelques...
Des Roumains.
Il y a des Roumains, bien sûr. Et alors, des Roumains, il aurait pu y en avoir beaucoup plus, parce que des milliers de volontaires étaient prêts à partir pour l'Espagne, issus généralement donc de la garde de fer et de la Légion de l'Archange Michel, les mouvements nationaux chrétiens créés par Corneliu Codreanu en Roumanie. Mais Codreanu ne voulait pas se priver évidemment de ses meilleurs militants, et il fut décidé de n'envoyer en Espagne qu'un détachement largement symbolique, mais dirigé par son beau-frère Ion Motta. Et ces Roumains ont été engagés sur le front de Madrid dès 1937, et notamment dans un secteur, dans un lieu dit qui s'appelle Marada Honda. Et là, ils se sont très bien comportés, ils ont subi de lourdes pertes au cours d'un assaut pendant lequel ils ont lancé le fameux Viva la Muerte cher aux légionnaires du général Mianastrai, et Ion Motta lui-même sera tué, et Bucarest, quand on ramènera son corps à Bucarest, lui fera des funérailles grandioses avec 200 000 personnes dans les rues pour l'accueillir. Et aujourd'hui encore, au nord de Madrid, dans ce secteur du front, à Marada Honda, il y a un monument qui commémore l'engagement de ces combattants roumains dans la guerre d'Espagne.
Et les Français ?
Alors, les Français constituent sans doute le contingent le plus important, même s'ils sont souvent difficiles à suivre pour toutes les raisons que j'ai dites. Les Français, nous savons d'où ils viennent. On peut déjà évoquer la figure du capitaine Bonneville de Marsangis, Camelot du Roi, mon cher Bernard.
Mais énorme, toujours parlerons des Camelot du Roi.
Qui a quitté l'armée après le 6 février 34 et qui a rejoint l'Espagne nationale dès l'été 36, qui a été le premier à proposer la création d'un bataillon français, parce qu'il y avait beaucoup de volontaires qui étaient prêts à partir, mais sa requête n'a pas été d'abord entendue. Le général Mola, en août 36, refuse l'engagement des volontaires étrangers. C'est seulement à partir du printemps 37 que l'idée d'un bataillon français commence à prendre corps, mais on n'arrivera jamais à constituer donc un bataillon complet. Il faudra se contenter d'une compagnie, la compagnie Jeanne d'Arc, intégrée à la 7e Bandera de la Légion. Compagnie Jeanne d'Arc dans laquelle passeront approximativement sans doute environ 600 combattants tout au long de la guerre. Mais compagnie Jeanne d'Arc dans laquelle il y aura également d'autres étrangers, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis compagnie Jeanne d'Arc qui est loin de rassembler tous les volontaires français. Car beaucoup de Français sont partis s'engager à la Légion. Beaucoup de Français sont partis chez les carlistes, souvent sous des noms d'emprunt. Je prends simplement un exemple. On connaît le cas de quelques jeunes légitimistes qui rejoignent dès le début de la guerre les rangs carlistes sous des noms d'emprunt. Et l'un d'entre eux, connu sous le nom de Guzmán de Loyola, on ne sait pas quelle est son identité, un jeune homme d'une vingtaine d'années, va être grièvement blessé à Navafria sur le front de Madrid, dans les Sierras du nord de Madrid, et il mourra peu de temps après à l'hôpital de Riaza. C'est un peu notre soldat inconnu des volontaires étrangers des volontaires français de la guerre d'Espagne dans le camp national.
Une précision sur les Français, c'est anecdote. J'ai le souvenir de discussions toujours du temps de ma jeunesse militante à l'Action française, de mes chefs camelots,
mon Dieu,
qui avaient fait la guerre d'Espagne. Et notamment l'un d'entre eux, qui était avant la guerre, chef de groupe des camelots du roi pour tout l'ouest de la France, et qui est parti avec son encadrement dès le début. Alors eux étaient originaires de l'aristocratie de l'ouest de la France, de familles qui avaient participé aux guerres carlistes. Et il m'expliquait que leur engagement s'est fait dans la tradition de ces guerres carlistes, et ils sont retournés en Espagne directement dans les unités carlistes régionales dans lesquelles leur grand-père avait combattu. Et les autorités espagnoles les ont très bien accueillis. Et ils ont
carlistes.
Oui, et ils ont constitué l'essentiel des volontaires étrangers, et qui était c'était l'origine Action française et plus généralement le Grand Ouest de la France. J'ai des noms me sont sortis de la tête, mais je les ai notés.
Également, parmi les origines politiques de ces volontaires, beaucoup de gens qui venaient des croix de feu et du PSF, malgré la condamnation du colonel Larocque, qui avait désapprouvé l'engagement de ses adhérents ou de ses militants dans cette guerre d'Espagne.
Tandis que Maurras a tout fait, l'AF a tout fait pour ravitailler en armes, notamment l'Action française. Et là encore, des souvenirs de mes chefs camelots du roi qui me racontaient comment les sections d'Action française du sud de la France, des Pyrénées, organisaient le passage d'armes du côté espagnol. Oui. Et ces armes qu'on va retrouver ensuite avec les affaires de la cagoule, etc. Voilà.
Alors que les cagoulards ou les amis de Simon Sabiani à Marseille sabotaient les trains de munitions qui partaient vers le camp républicain.
Voilà.
Des précisions à compte, effectivement.
Alors, combien de Français?
Engagement indirect.
Peut-on savoir combien?
J'évaluerais à peu près, d'après ce que j'ai pu lire, les Français qui ont combattu en Espagne, je les évaluerais aux alentours de 3000.
3000.
C'est-à-dire que la compagnie Jeanne d'Arc, on peut évaluer en gros 600 combattants, ils sont passés tout au long de la guerre, mais elle représente peut-être un quart, voire seulement un cinquième des Français qui ont combattu en Espagne, avec certains cas, hein, qui étaient à Barcelone, qui a rejoint le Tercio de Requetes Nuestra Señora de Montserrat, et qui ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, a rejoint la résistance française et qui a été l'un des pendus de Tulle, par exemple. Donc des cas de figure assez étonnants. On a eu Camaret, le capitaine de Camaret, qui a combattu en Espagne et qui a été ensuite...
dans les carlistes.
Bien sûr, et qui a ensuite été FFI, compagnon de la Libération. On a le cas du capitaine de Decker qui a combattu en Espagne, qui est à l'état-major du général Juin en Italie. Ensuite, on ne voit pas se reconstituer de manière quasi automatique le clivage idéologique ou politique qu'on pourrait attendre ensuite.
Victoria, quelques questions d'auditeurs.
Pouvez-vous parler de l'implication des Basques dans la guerre d'Espagne?
Continuez vos questions.
Pouvez-vous nous parler des anarchistes? Primo de Rivera ne dit pas un bouffon fasciste, mais un véritable chrétien.
Mais qui a parlé de bouffon? Là encore, il faut enlever les boules de caisse.
Pouvez-vous évoquer le refus de Franco de laisser passer Hitler par l'Espagne, ce qui a eu de grandes conséquences? Un auditeur, que doit-on penser du livre de Pierre Constantini, La Légion tricolore en Espagne?
Continuez, Victoria, parce qu'il nous reste...
Le comte de Grune, nous dit cette auditrice, était un cousin de mon père, et je suis très fière qu'on le nomme. C'est une adhérente belge de la radio, Courtoise.
C'est une grande figure. C'est une très grande figure.
Et un auditeur se souvient, au baccalauréat en 70, j'ai été interrogé sur un texte de José Antonio défendant la mémoire de son père. Malgré le gauchisme ambiant, j'ai eu 16 sur 20 en espagnol.
Oh, si le professeur avait donné un texte sur José Antonio, il ne devait pas être tellement anarcho-syndicaliste.
Alors, l'auditeur qui nous parlait des Russes blancs tout à l'heure vous disait que c'était la Tercio Donna Maria de Molina.
Oui, le Tercio Donna Maria de Molina.
On a voulu les regrouper dans le Tercio Maria de Molina parce qu'il y avait déjà un certain nombre de Russes, mais c'est un projet qui n'a pas finalement abouti. Et ils sont restés en fait dispersés dans plusieurs unités. Mais il y en avait beaucoup dans ce Tercio de Requetes.
Philippe Corrad, 3 minutes pour répondre aux questions d'auditeurs, car nous allons devoir donner la parole à Victoria. Nous arrivons au terme de l'émission.
Aux diverses questions. Quelques mots rapidement sur les anarchistes. Ils avaient en Espagne une importance considérable par rapport rapport au reste de l'Europe. C'était lié donc pour une bonne part à la situation foncière du pays, il promettait le partage des terres, etc. Donc il y a tout un prolétariat agricole qui s'est rallié à l'anarchisme, qui est très bien organisé dans le cadre de la FAI, la Fédération anarchiste internationale, et puis du grand syndicat de la CNT, la Confédération nationale des travailleurs. Donc ils ont joué un rôle considérable au début de la guerre. Ils ont débordé constamment le gouvernement républicain par des surenchères, notamment anticléricales. Ils ont été dans grande partie à l'origine des incendies d'églises, de massacres des prêtres. Il y a eu 7000 ecclésiastiques qui ont été assassinés pendant la guerre d'Espagne. Donc les anarchistes, effectivement, ont joué un rôle considérable dans le drame espagnol.
Les questions d'auditeurs ayant entré au rôle de Franco dans la non-traversée de l'Espagne par
Hitler. Alors bon, là, on connaît l'épisode. Hein. Hitler a rencontré Franco à Hendaye à l'automne de 1940. Et à cette époque-là, Franco, extrêmement prudent, qui était en mesure de constater l'échec de la bataille d'Angleterre, n'a pas voulu s'engager au-delà. Alors que l'on sait que quelques mois plus tôt, sous l'influence de son beau-frère Serrano Sonnier, qui lui était tout à fait acquis à l'idée du nouvel ordre européen, évidemment, il aurait peut-être été un petit peu plus hésitant. Alors effectivement, ça a eu des conséquences importantes, parce que si les Allemands avaient traversé l'Espagne, c'était par Gibraltar, on peut imaginer un déroulement différent de la guerre, au moins dans un premier temps. Mais Franco, c'est bien clair, quel qu'ait été le soutien apporté par l'Allemagne et l'Italie pendant la guerre civile, était avant tout un Espagnol, soucieux en priorité des intérêts de son pays. Et on voit bien à partir de 42, après le débarquement allié en Afrique du Nord, que Franco change nettement d'optique. Le contre-ordana va remplacer Serrano Sonnier comme ministre des Affaires étrangères. Et Franco recherche effectivement le contact avec les Anglo-Saxons et rappelle par exemple la division Assoul qui était engagée sur le front de l'Est. Il veut donner des gages ainsi. Et politiquement et de son point de vue, il aura eu raison puisque son régime survivra à la fin de l'Axe en 1945.
Dernière question, Philippe. Pensez-vous qu'il soit possible d'écrire l'histoire des volontaires étrangers dans le camp national ?
Ben je crois que ce serait une aventure passionnante pour un jeune chercheur, pour un historien. Malheureusement, j'ai l'impression que beaucoup de temps a été perdu parce que malheureusement beaucoup de ces volontaires aujourd'hui ont disparu et il y a sans doute beaucoup de témoignages qui ont été ainsi perdus dans la perspective de cette enquête.
Philippe Conrad, merci. Dominique Vénère, merci. Victoria, merci. Plusieurs auditeurs nous demandent d'identifier les champs que nous avons passés au début en hommage à Jean Nourigat. Ce sont des chants qui sont tirés de Chants de France numéro 11, édité par le Chœur Montjoie Saint-Denis. Nous avons entendu la loi scout pour commencer, et ensuite Je mets ma confiance. Alors c'est un très bel album du Chœur Montjoie Saint-Denis. Pour se procurer cet album, les auditeurs doivent écrire à Chœur Montjoie Saint-Denis, Chœur Montjoie Saint-Denis, chez Valérie, c'est le restaurant La Mer Agitée, 21 rue Campagne Première, 21 rue Campagne Première, 75 014 Paris, 75 014 Paris. Victoria, pouvez-vous nous rappeler rapidement les annonces ? Vous avez 3 minutes et demie pour nous rappeler les annonces.
Toute la vie devant moi. Le dimanche 15 juin, dans le 9e journée littéraire pour les 10 ans du Libre Journal de Serge de Bekech, une centaine d'auteurs, de responsables d'associations et de journaux amis vous attendent de 10h à 18h dans les superbes salons et jardins de l'Union des Aveugles de Guerre, 49 rue Blanche, dans le 9e, entrée libre. Alors on vous invite particulièrement au stand Rivarol, 20h, banquet du Libre Journal, participation 50€. Vous pouvez réserver, il reste encore des places, vous pouvez réserver à SDB, 4 place France List, 75 010 Paris, et vous pouvez téléphoner au 01 45 23 51 01. Alors on assure la présence de Vladimir Volkov, Florence de Baudus, Jean Raspail, Jacqueline Doucet.
Oui. Vladimir Volkov, je crois aussi.
Oui, oui. Et puis, 2 minutes,
Victoria.
Nos amis, ici présents. Afrique réelle, je rappelle pour
bien
la
sûr.
Afrique réelle, boîte postale 6, 0340 Charroux, CHA208X, et c'est 58 euros pour les 4
numéros annuels.
Bon,
nous pouvons rappeler la nouvelle revue d'histoire, le numéro en cours, donc la nouvelle revue d'histoire, que l'on trouve dans tous les kiosques, puisque la nouvelle revue d'histoire est distribuée en kiosque, donc les auditeurs la trouvent sans problème en kiosque.
Oui, mais ils peuvent s'abonner.
Alors, oui, certes, mais une précision. Le numéro actuellement est en vente. C'est le numéro 6, qui est en vente jusqu'à la fin du mois. Dans le numéro suivant, c'est-à-dire celui qui sera en vente au début du mois de juillet, nos éditeurs trouveront un article de Philippe Corrade qui reprend tous les éléments disponibles concernant les autres volontaires, c'est-à-dire les volontaires nationaux qui ont servi du côté national pendant la guerre d'Espagne.
Nous rappelons le colloque de l'Institut franco-hispanique qui a lieu
le samedi 21 juin dans les salons Étoile Marceau, 79 bis avenue Marceau, Paris 16e.
Eh bien, il ne nous reste plus qu'à prendre congé de nos auditeurs. Et chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 9 juillet pour notre prochaine émission du Libre Journal de Serge de Bekech, dirigé par Bernard Lugan. D'ici là, je souhaite un bon pèlerinage à ceux qui vont marcher dans la Pentecôte, et rendez-vous donc au mois prochain. Bonsoir Victoria, bonsoir Dominique, bonsoir Philippe, et nous remercions nos amis, notre ami de la régie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le Libre Journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Bernard Lugan avec l'assistance de Victoria. Diffusé en direct mercredi 4 juin 2003 de 18 à 21h, en différé jeudi 5, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole par avance merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Radio Courtoisie.